Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Coucou. L'épisode est présenté par la microbrasserie Le Coureur des Bois. Ils te vendent des bières. Allez sur leur site internet, Le Coureur des Bois. Mettez ça dans Google, comme n'importe qui. Il n'y a plus personne qui tape, je pense, unadresse.com, à part les gens de 89 ans. Normalement, si tu veux un site, tu le mets sur Google. Le Coureur des Bois, sur Google, il y a un site pour voir tous leurs points de vente. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, si tu veux, de leur bière. C'est disponible. J'adore de quoi ça a l'air. Ils ont plein de sortes de bières. Je trouve ça vraiment cool. C'est délicieux. Et je trouve ça important. Pour moi, c'est un commanditaire important parce que Mathieu Lévesque travaille pour cette entreprise et c'est le premier gars qui a cru en moi, qui m'a donné un 45 minutes. C'est le premier gars qui m'a écrit par lui-même et qui m'a dit « Tom, viens faire un show dans mon bout, à Dolbo, devant mon monde, pendant 45 minutes. Je suis sûr que ta face sur une marquise, on peut vendre des billets. » C'est le premier qui m'a offert autant de temps de scène. Et il y aura toujours une place super importante dans ma vie, super importante dans ma carrière. Ça me fait plaisir de pousser ce pourquoi il travaille. Alors, s'il vous plaît, Le Coureur des Bois, vous allez encourager quelqu'un qui m'a encouragé. Alors, si vous voulez boire une bière et vous ne savez pas laquelle boire, s'il vous plaît, cette bière-là, ça encourage quelqu'un qui fait... Si tu m'aimes, et si je fais encore ça, c'est en partie grâce à Mathieu Lévesque. Alors, merci beaucoup. Sur ce, le podcast commence. Mon amour.
Oui.
Cette semaine, tu t'es rappelé une fois où je t'ai fait honte devant ta famille.
Une autre fois.
Une autre fois.
C'est sûr. C'est sûr qu'il y en a plusieurs et qui sont toutes savoureuses.
Laquelle dont tu veux qu'on parle? Non, oui, je sais de laquelle que tu veux qu'on parle. C'est de la foi. Où j'ai une petite nièce d'environ 7 ans. Et c'est l'âge où tu apprends aux enfants à appeler au 911. Ou à aller voir, approcher un policier dans une situation où est-ce que tu te sens en danger, mm-hmm. tout ça. Donc, s'il y a le feu ou s'il y a le feu à la maison, ou des choses comme ça, s'il arrive un accident, t'appelles au 911. Et bref, on était tous en famille, on parlait de ça avec...
On écoutait une vidéo.
Oui, mais on était en famille, puis il y avait la vidéo, j'y viens!
Excuse-moi.
Mais, alors voilà, puis là, tu es intervenu dans la discussion pour dire à l'enfant de 7 ans qu'il fallait pas qu'elle trosse la police.
Faut pas! Parce qu'elle écoutait la patte patrouille.
On écoutait la patte patrouille. Et là, t'as fait une envolée sur cette milice privée très dangereuse.
Oui,
il y a seulement une femme, d'ailleurs. Parce qu'il y a toujours de la place juste pour une femme dans chaque groupe. Hein?
Et ce que j'aimerais dire à notre nièce, si elle nous écoute, si t'es dans le trouble, faut pas que t'appelles la police, faut que t'appelles Nada Boumefta, une avocate. La lionne du droit. La police, tu parles pas. Tu ne parles pas à la police, tu gardes ton droit de silence.
D'accord.
C'est un droit dans la Constitution canadienne.
Oui.
Avez-vous parlé de la Constitution canadienne à votre nièce?
Non,
moi,
pas
ouais.
encore.
Moi, j'y parle de la Constitution canadienne. Et aussi, je trouve ça génial que la patrouille, la police, c'est des chiens. Je trouve que c'est une belle note.
Oui. Tu te souviens-tu aussi, elle nous a tous attribué des rôles dans la patrouille? Ouais. Moi, j'étais le chien qui s'occupe du Mountain Rescue.
Génial.
Et toi, c'était quoi donc que t'avais attribué comme
rôle?
T'es
pas les pompiers?
Non, t'avais un rôle vraiment...
Oh, le recyclage! Moi, c'est le recyclage!
T'es le gars du camion de recyclage!
Ouais! Ce qui est vraiment insultant. Je pense que c'est une manière de se venger. C'est une manière de... Tu fais... T'es weird à la maison, fait que...
Fait que... On va pas te donner un rôle trop important dans notre milice privée familiale.
Mais c'était c'est pas la fois où j'ai plus dérangé ta famille. C'est la fois où j'ai demandé à la même petite fille
oui.
si c'était plus pro-palestinienne ou pro-israélienne.
Oui.
Et ton frère a intervenu.
Oui.
Ton frère a dit que ça lui fait de la peine parce qu'elle comprend pas.
Oui.
Puis j'ai
oui.
dit, mais non, on a du fun! On a du fun!
On a du fun en ouais. famille.
Puis là, c'est là que j'ai appris que ta nièce est pro-zioniste. Ça fait mal! Ça fait mal! Il y a des petites filles de son âge qui n'ont pas accès à des médicaments à cause d'Israël, puis être à l'aise avec ça.
Tu vas pouvoir être là pour l'aiguiller dans sa réflexion.
L'aiguiller ou faire de la propagande weird de gars qui lit des affaires à moitié? Parce que je reste un humoriste.
Imagine, dans chaque famille, il y a un mononcle weird, puis pour elle, c'est toi.
Ouais.
C'est incroyable.
C'est extraordinaire. Je suis content. On a besoin d'un. Mais non.
Non, pas nécessairement.
On a tous besoin d'un mono
bizarre. J'ai des problèmes de consommation et de comportement. On a toujours besoin de ça. C'est un gros épisode, mesdames et messieurs.
Oui.
Vous l'avez vu dans le thumbnail. Vous l'avez entendu. Mon clone! Comment tu vas?
On part avec ça.
Oui.
c'est quoi la pause de ça? Je l'ai pas vu.
Oh, mon Dieu. D'ailleurs, je vois double. Je suis ouais. confuse.
J'ai mis une couleur différente pour Merci. Être sûr.
Mais juste avant ça, je vais le mentionner. C'est fou que tu sois plus vieux que moi, mais j'ai l'air d'avoir 10 ans plus que toi. Ça, c'est quand même rushant pour moi. Que j'ai l'air d'avoir 42 ans fatigué.
Non, ça vient de... Un mané, on discutait, puis... Tom, il était un peu concerned par ses cheveux. Et là, il voulait prendre la décision de « Est-ce que je me rase au complet ou pas les cheveux? » Et moi, j'ai dit « Ben, c'est pas grave, tu peux faire ce que tu veux, tu sais. » Puis là, il a dit « Ben, je suis pas sûre, parce que si je me rase les cheveux au complet, les gens, ils vont me confondre avec Guillaume Wagner. »
Puis elle partait à rire trop fort.
Pleurer de rire, puis j'expliquais que ça arrivera pas. Les gens vont pas faire « Voyons donc!
» Qui est qui? Qui est qui? C'est parti de là.
Mais tu feels-tu qu'on se ressemble pour vrai ou...
Zéro.
OK, OK, OK.
Je souhaite qu'on se ressemble. C'est mon petit souhait.
OK.
Je fais tout pour
c'est du wishful thinking.
Ah, bien sûr. Okay. Puis ça se produit pas.
Non, parce que moi, c'est un classique quand même. Genre, tout le monde me ressemble apparemment en tournée. Là, souvent, les gens viennent me voir. Bon, ils peuvent plus, là, mais avant, ils venaient me voir après le show comme « Hey, moi, là, mon cousin, pareil comme toi. » Puis là, je suis comme « Ah, OK. » Puis là, il monte une photo, puis c'est juste qu'il est rasé, puis un peu de barbe, puis il me ressemble zéro, puis je suis comme, ah, c'est cool. C'est... Tout le temps. Constamment, il me ressemble jamais, les gens qui sont supposés me ressembler. Puis à chaque fois, je suis comme, OK. Puis là, ils veulent que je l'appelle au téléphone, ils disent, ah, non, non,
c'est... Mais ça, c'est un truc très masculin. On pense tout le temps qu'on ressemble à quelqu'un. Et les filles, bref, je trouve ça drôle qu'il y a des. C'est très masculin, ça. Ah, oh, ouais, moi, je ressemble au gars qui passe à la TV.
C'est vrai? Ouais. Mais peut-être les filles aussi.
Un peu moins. Un peu moins.
Ben moi, Sébastien Diaz me comparait à Angelina Jolie. Ouais, je le redire.
Ça, c'est spécial. À TV.
À la télé.
À TV d'État. OK, OK. À TV d'État. Non, j'en ai déjà parlé, mais je continue. À TV d'État, Bob le chef, notre ami, on le salue, il parle de notre podcast. Il y a la photo, puis il fait hein, « la fille ressemble à Angelina Jolie. » À la télévision d'État, il a shoté au net.
Yes, sir.
Et quand il y a un gars qui fait des centaines de milliers de dollars, qui crouse ta blonde à TV, puis tu sais que les brunes sarcastiques, ils haïssent pas ça, ça fait mal.
Tes impôts ont payé pour ça.
Sorry.
Si tu parles en privé, je sais pas ce que je fais. Si tu parles en privé, je fais « Bianca, comment ça va? » Je pense pas. C'est génial que je sois consul parce que je me mets à parler à Bianca Gervais parce que je pense que Sébastien Diaz a un fling avec toi.
Ça commence comme ça.
Ça commence comme ça.
Mais oui.
Mais t'as-tu invité? Tu vas-tu y aller?
Si j'étais... Hein?
L'émission, là.
Ben, c'est que Bob le chef, il était invité à son émission, puis les gens partageaient leur coup de cœur culturel, puis là, il a parlé de notre podcast. Mais ils nous ont pas invités.
Oui, note, les gens de télévision, quand ils lisent Coupe ouvert, ils ricanent, puis ils virent fous.
Ouais, c'est un drôle de choix quand même. C'est un peu comme sexe illégal qui se sont appelés sexe illégal. C'est comme ça va c'est induit en erreur quand même.
Oui,
On a beaucoup de gens qui sont induits en erreur, qui nous écrivent en privé en disant voulu vous faire de quoi vendredi soir? On explique.
Un podcast?
Ouais. On peut. Non, voici un lien pour un, voici un lien pour le show, mais mettez ça quand vous faites l'amour, mais on va pas
participer. Mais moi, chaque fois que les gens prennent au pied de la lettre couple ouvert, l'autre exemple que j'ai en tête, c'est tout le temps, est-ce que ces mêmes personnes pensent que les deux hommes en or sont en or?
Oui.
Imagine-tu. T'ouvres ta télé, t'es déçu. Je m'attendais à deux hommes en or.
Puis c'est Patrick Lagacé et Pierre-Yves Lord. Ça, c'est le maximum des hommes. C'est le pic. On peut pas dépasser ça.
Oui, duo. En effet. Je voulais parler avec Guillaume parce que on est en pandémie. On s'ennuie un petit peu. Énormément. On cherche des choses à faire, mais on s'est mis à s'échanger et à commenter sur des documentaires.
Écoute, moi je m'ennuie zéro, hein. Moi j'adore ça. Je ferais que ça de ma vie. Moi j'ai découvert une passion quand même.
Ouais.
Moi je fais que ça en pandémie. J'écris le jour, puis le soir je fume du weed.
Ouais.
J'écoute des documentaires. C'est que ça je fais. Si un vous en avez d'ailleurs, envoyez des suggestions. J'adore ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pourquoi. J'ai écouté The Last Dance. Meilleur documentaire de tous les temps, là, je pense, sur Michael Jordan. Mm-hmm. Puis je fais comme, ah, si, c'est vrai que c'est bon un documentaire quand c'est bon. T'sais. Fait que là, j'en ai cherché, puis il y en a plein
de
bons.
Moi, c'est ma passion. Ça me fait plaisir de t'en suggérer.
Mais pas des documentaires compliqués, là. Tu sais, pas des affaires genre sur, je sais pas, les batraciens, whatever. Ça m'intéresse.
Non, moi, j'en ai un.
Moi, je veux des affaires vraiment d'hommes, là, tu sais.
Ben, moi, un truc que je pense que tu vas adorer, ça s'appelle The Queen of Versailles. Et c'est l'histoire.
Ouais, j'ai entendu parler, j'ai pas vu, mais
c'est incroyable. C'est incroyable. Pour ceux qui nous écoutent, c'est une dame en Floride qui sort avec un manga. Lui, c'est du timeshare. Tu sais, t'achètes un condo en Floride, mais tu l'as juste genre 3 jours, là, sur une année, mais ça te paye vraiment. Fait qu'il est super riche.
Ouais, ouais.
Ils veulent se reconstruire Versailles en Floride. Mais pendant le documentaire, la crise des hypothèques...
De l'immobilier de 2008.
Oui. Tombe, arrive, fait qu'ils peuvent plus. Ils font faillite et tu vois une famille hyper riche faire faillite et c'est hilarant.
Wow.
Puis c'est fascinant.
Ouais.
Parce qu'ils perdent tout. La fille est particulière. Là. Ils ont des dizaines d'animaux. Fait qu'ils doivent mettre dehors tout leur staff. Fait que plus ça avance, plus il y a des excréments partout dans la maison.
Puis c'est de voir vraiment... Ben, on le voyait aussi un peu dans...
Puis si c'est la décadence, là. À un moment donné, ils disent, là, faut serrer la ceinture. Ben, la fille, a fait « OK! » Puis à Noël, elle achète, je pense, pour quelque chose comme 13 000 piastres de cadeaux au Walmart. Mm. Puis tu vois les enfants déballer des cadeaux, puis ils ont même plus de fun, ils sont juste tannés. Ils déballent des cadeaux, puis la bonne femme est contente. Ben, comme on est, c'est comme avant. Puis non, c'est pas comme avant, c'est magnifique.
Ouais.
Moi, j'adore les documentaires où c'est pas ce qu'ils pensaient qui allait arriver, qui arrive. Là.
Ouais.
J'adore ça. Je pense que j'en ai déjà parlé de ce documentaire-là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est un gars qui s'appelle Troy Duffy, je pense. Il a fait The Boondock Saints. C'était comme un film des années 90. C'est devenu comme culte en vidéocassette, mais c'est pas au cinéma. Mais bref, c'est un gars qui s'est fait repérer par Harvey Weinstein. Il était bouncer dans un bar à Boston. Puis lui, il a écrit un scénario, en fait. Puis il a compris que c'était Harvey Weinstein. Il a donné le scénario, tu sais. Puis le Weinstein, il aimait ça. Il a tellement aimé ça. Il a donné un espèce de gros contrat, genre une avance $1 million. Des affaires qui n'avaient pas de sens. Là, il y avait cet argent-là à l'époque. Je pense que c'était dans le temps de Tarantino. Il cherchait des nouveaux talents, puis tout ça. Puis là, lui, le gars, il fait comme « c'est parti. Je vais aller au top d'Hollywood. » Fait que je vais tout filmer ça parce que je suis le plus narcissique des imbéciles. Fait qu'il a tout filmé ça, mais ça s'est tellement mal passé. C'est un asshole, le gars. Genre, il gueule après des exécutifs, tu sais, puis il gueule après une fille, il raccroche, puis il demande c'est qui ça. Ouais, c'est comme la sous-bosse là, de Universal, mais comme, oh shit, c'est pas bon, ça fait. Tout crash, là, tu sais, ça marche pas, il perd tout son argent, le film finalement. Il réussit à le faire indépendant, mais tout croche. Finalement, ça a marché quand même, ce film-là, mais c'est hot de voir la descente aux enfers de quelqu'un qui l'a filmé. Là, il avait pas prévu ça, puis il est juste comme « Ouais, là, on vient de perdre notre star numéro un. » Mais dans la montée, c'est fou. Là, genre Patrick Swayze veut jouer là-dedans. Sylvester Stallone, en tout cas, il y a plein de... Les grosses vedettes, c'est le buzz à Hollywood. Mm-hmm. « Hey, on veut faire ce film-là. » Mais finalement, ça chie bien raide, puis lui, il a tout filmé ça comme un imbécile. C'est pas super qualité, là, évidemment, le documentaire, mais... Fuck, c'est bon. J'essaie de vous retrouver le nom.
Je suis sûr que c'est sur YouTube.
Mais c'est facile à trouver, tu sais, Boondock Saints, le réalisateur de ça. Puis, mais oui, il y a un documentaire
là-dessus. Si on trouve un lien, on va le mettre dans la description YouTube. Ah, oh, génial! C'est cool, ce documentaire-là. Le monde qui vire fou.
Ouais.
C'est les plus beaux documentaires, c'est le monde qui vire fou.
Ouais, le monde narcissique qui décide de se documenter, de s'auto-documenter, ça risque de chier.
Tu sais, le documentaire « Tous les humoristes parlent, Comedians » de Jerry Seinfeld. Ouais. Le film est bon à cause de l'autre gars, Oney Adams. Parce que dans le documentaire Comedians, ouais. ce que Jerry Seinfeld fait, c'est qu'il filme, il recommence à zéro à construire une heure.
Okay.
Mais il se dit, c'est pas assez. Alors le film est coupé en deux. T'as la partie de Jerry Seinfeld et t'as la partie d'un up-and-comer qui s'appelle Orny Adams, okay. mais un nom au monde, qui lui veut un petit peu le statut de Jerry Seinfeld.
Ouais, ouais, ouais.
Mais il est névrosé fois 10 000.
Okay.
Et il n'y a pas de filtre.
Okay.
Alors c'est un gars qui exprime tout son ego et son narcissisme, c'est génial.
Ouais, ouais, il envoie chier des gros agents, puis tu sais, il se voit plus big que tout le monde, puis il est pas mauvais, mauvais. Non? Il est quand même pas si mal, mais ouais. il est pas assez bon pour ce qu'il pense qu'il est, là.
Pour l'attitude.
Puis ouais, ouais, il est dégueulasse. Là, tu vois Jerry Seinfeld donner des conseils, puis là, tu le vois que lui est comme.
Puis c'est con, le documentaire. Le documentaire décroche. C'est un peu. Il est un peu construit comme. Regarde comme moi, je suis calme, puis serein, puis regarde l'autre imbécile. Puis lui, il pogne les nerfs. Puis parce que, évidemment, les meurs, Jerry Seinfeld, c'est lui qui monte à la fin, celui qui a un final cut. Tous les moments exact. Où Jerry Seinfeld est génial, tu le vois, puis lui. Ah, tandis que l'autre.
Il... Ouais. Mais c'est ouais, ouais. tu reprochais un peu à The Last Dance, justement, toi.
J'haïs ce film-là, moi.
Ah ouais, t'as pas aimé ça.
Ouais. Pourquoi donc déjà?
J'haïs ce film-là parce que ça a été fait par Michael Jordan et Michael Jordan montre juste ce qu'il veut bien montrer.
Ouais,
wow,
ça c'est
ça. Ce qui est génial de Michael Jordan, c'est ce qu'il veut pas montrer.
Ouais, mais il y a quand même des moments où, tu sais, je pense à l'épisode 7 là, que j'ai trouvé génial où à la fin, tu sais, il explique. C'est quoi gagner, là. C'est comme mm-hmm. ce que ça implique, là. Puis il devient émotif par rapport à ça. C'est comme s'il avoue qu'il est asshole, ouais. mais il est comme, man, être asshole, c'est ça qui m'a fait gagner. Mm. Fait que j'étais comme, ouais, effectivement.
C'est drôle, genre, tous ceux, voici mon observation, peut-être que je me trompe par rapport à toi. Tous ceux qui capotent sur Michael Jordan, comme moi, ont pas aimé le documentaire parce qu'ils font ça juste 10 heures lorsqu'on sait déjà. Tous ceux qui découvrent Michael Jordan, comme mettons ma blonde, font, ah, c'est vraiment cool. Mais si tu quand si tu connais Michael Jordan, c'est que ça. Son discours au Temple de la Renommée, c'est une demi-heure de lui qui blasse tout le monde.
Oh,
et
ouais,
au Temple de la Renommée,
il est excellent.
Il blasse son coach. Le bout de génial, c'est qu'il blasse son coach de collège, qui est un coach légendaire. Puis c'est un vieux monsieur. Je savais plus. Excuse. Puis ça marchait tes calices d'affaires. Qu'est-ce que tu fais à me blaster?
À l'aube de la mort, là, dans ta petite chaise blanche.
Oh,
tu t'en vas, tu dis, mon ancien élève, il reçoit un beau trophée. Puis là, tu t'assois, puis il te blasse.
Ouais. Il dit, je m'en souviens, en 82, t'as pas voulu que je fasse au Sports Illustrated, hein? Ben, j'ai gagné le championnat, grâce à moi, puis. Ben, oui!
Okay.
tout est bien qui finit bien.
C'est en génial. Même temps, je suis 100% comme ça, moi aussi. Moi, tous mes profs à l'école de l'humour qui m'ont donné un seul mauvais commentaire, je me rappelle de tous leurs noms.
Ouais, moi aussi. J'étais à la même place. J'étais à même.
C'est un moteur. Je sais, je vais pas aller les blaster, mais ça a longtemps été un moteur. Ça l'est plus, là, mais ça a longtemps été comme si tu m'as le montré, mes tabarnak.
Vous voyez bien.
Ah, ouais. Moi aussi, je comprends ça. J'ai encore des noms à tête. Donc, ouais.
Uh-huh. Non,
ouais, mais sûrement les mêmes. M'a fait couler ce cours-là. OK, c'est cool.
Tu as coulé un cours à l'école de l'humour?
Non.
OK.
Non, parce que je suis assez manipulateur pour toujours avoir 60.
OK.
Il y a moyen de. Okay. Je suis rentré à l'école sans diplôme sur la scène.
Ça se fait couler un cours à l'école de l'humour?
Ben oui, y en a un qui a doublé, tu sais.
Ben voyons donc!
Alex Champagne.
Ben c'est ça,
Alex Champagne, il dit, moi, j'écris pas mes enfants.
Il était dans mon année. Okay. Il faisait rien, là. Il faisait rien. Là. Mais tu sais, comme il était jeune, il était plus. Je pense qu'il avait 19 ans quand il était avec nous autres. Puis. Okay. C'est à chaque vendredi, il faut faire un numéro. Il était pas tout à fait préparé. Là, il faisait souvent la même affaire, en fait. Puis là, à un moment donné, ils ont dit, ouais, Alex. Là. Mais je pense qu'ils l'ont fait doubler plus pour que, gars, t'es trop jeune. Prends une année de plus. Ça va être bénéfique. Puis je pense que ça l'a été, tu sais.
OK.
Mais ça se peut, ouais, effectivement.
Et ben, coudon. Mais OK, mais sinon, revenons au documentaire sportif parce que là, je veux qu'on parle un documentaire sportif qu'on a adoré.
Juste avant, je peux te mentionner une affaire que je t'ai dit dans le char à propos de Michael Jordan. Mon anecdote qui, je pense, n'est pas dans le documentaire, qui est exceptionnelle.
Vas-y donc.
Michael Jordan, il était. Premièrement, ça a été documenté dans le. Si vous trippez sur Michael Jordan, le meilleur documentaire à propos un petit peu de Michael Jordan, c'est le documentaire disponible sur YouTube sur la Dream Team, la première équipe qui a fait les Jeux Olympiques dans la NBA en 92. Puis il montre des choses sur Michael Jordan qui est un peu plus intéressante, dont que lui, comment il a participé à. Parce qu'il voulait pas participer à l'équipe de Dream Team. Il disait, moi, l'été, je joue 36 trous par. Lui, il joue 36 trous. De golf par jour.
Par jour?
Par jour.
Ça,
okay. Okay. Fait que moi, je veux faire ça. Puis pendant la Dream Team, il faisait ça. Il faisait 30, à chaque Évidemment. Jour, 36 trous le jour. La nuit, il gamblait. Il dormait pas.
OK.
La nuit, il gamblait.
Crazy. Pour vrai, il n'y a pas rapport, ce gars-là.
Et la journée, il jouait 36 trous. Puis après ça, il battait genre l'Ouganda par 56 points. Puis aussi, c'est dit la raison pourquoi je participe à cette équipe-là. C'est pour observer en pratique mes adversaires.
Oui.
Parce que c'est tous les gens avec qui je vais me ramasser en séries éliminatoires. Ouais. Je vais pouvoir voir comment ils pratiquent, c'est quoi leur jeu, puis les battre. Ce qui a marché.
Ouais.
Charles Barkley, qui jouait avec Phoenix, il s'est ramassé en finale contre Charles Barkley.
Ouais.
Et là, Michael Jordan, il a une idée. Juste pendant la série ou juste avant la série, il l'a amené jouer au golf. Et il a donné un super beau bijou qui vaut des dizaines de milliers de dollars. Puis il y a bien des journalistes qui ont appris ça, puis en fait, pourquoi t'as fait ça? Puis ben, c'est évident. En lui donnant un bijou, puis en jouant au golf avec lui, il pensait qu'on était amis. Alors pendant la série, il me frappait pas. Fait que si tu regardes la série entre les Bulls puis Phoenix, Charles Barkley, quand Michael va au panier, il dérange jamais. Il est jamais trop physique. Puis il a plus. Sa meilleure série, c'est contre. Puis je pense que sa moyenne de points, c'est 40 ou 50 points.
Ah, ça tellement, ça devient une mode. Avant chaque finale, il y a une équipe qui va apporter plein de bijoux à l'autre équipe.
C'est
Tom Brady l'a fait avec Mahomes cette année.
Ah ouais?
Tom Brady en série disait, yo Mahomes, il y a des qualités athlétiques que j'ai pas. Il l'a vraiment flatté.
Ouais, il a l'air à faire ça lui aussi. Il avait fait ça avec Drew Brees aussi. Là, tu sais que c'était probablement son dernier match. Puis il était chummy avec avant. Puis ouais, j'avoue que c'est une stratégie qui peut fonctionner, j'imagine.
Tom Brady,
les bijoux, ça me fait rire. Je pense que c'est l'image des bijoux. Je m'imagine juste des gros bijoux.
Stratégie pour les gens qui vont aller à l'émission Le Prochain Stand-Up. Apporter des bijoux au jeu.
À Louis Boxset,
une couronne.
Yeah, Louis, t'es le meilleur.
Des crises de grosses bagues. Tiens, PA.
Dans un coffre, là. Puis ça briche.
J'avoue ma chronique à énergie. J'avoue ma chronique payée 110$. Voilà. C'est ça, ma grosse anecdote de Michael Jordan.
Ben, j'adore.
Est-ce qu'il en parle qu'il a frappé Steve Kerr dans le documentaire?
Oui, il en parle. Ça, il en parle assez longtemps même. Mais c'est ça, il expose quand même ses côtés asshole, ses côtés gambler un peu.
C'est curieux, en 10 heures, le documentaire, il parle pas de sa femme.
Ah ouais, c'est vrai, ça.
Mais non, parce que sa femme n'a pas un super rapport avec sa femme.
Je sais pas.
Ben, non.
Il n'a pas acheté assez de bijoux.
Il n'en achète pas de bijoux.
Tout le monde qui veut gagner partout, ils veulent aussi gagner dans leur relation amoureuse.
Ouais, non, ça c'est clair.
Et je pense qu'on le sait tous, Michael Jordan, il était fidèle tout le long. Il n'a jamais couché avec... aussi, le truc génial, le truc que j'adore le plus, là où j'ai décroché du documentaire, c'est quand, au début de sa carrière, quand il est repêché avec les Bulls, il dit que les Bulls sont fuckés. Là, tout ce qu'ils font, c'est faire de la poudre puis coucher avec des prostituées.
Ouais.
Mais Michael, pendant ce temps-là, il lit des livres policiers dans une autre chambre. Ouais. Comme, je sais pas si un gars de 22 ans qui fait « Veux-tu faire de la poudre puis des prostituées? » Puis il fait « C'est parce que j'ai pas fini mon Sherlock Holmes.
Ouais, mais allez, prenez de l'avance, je vous rejoins. Ça va pas trop long.
Enfin, là, j'avais pas pensé que c'était lui. Le tueur, c'est le narrateur, j'avais pas pensé. Parce que j'ai cru. Parce que je lis les gars, là. Ça, c'est. Là, s'il vous plaît.
Prenez de l'avance.
Fait que de quoi tu veux parler, Mouna?
Je voulais parler de Tiger Woods. Parce que.
Ouais.
Quel excellent documentaire.
Mais il y a un lien quand même. Il était chummy avec Michael Jordan quand même. Je pense que c'est lui qui l'a amené à la déchéance, en fait.
C'est
ce qu'on comprend.
Ouais. Il l'amène à Vegas.
Ouais.
Mais j'ai adoré, moi, ce documentaire-là. Parce que là, justement, c'est pas produit, là, par.
Non,
Tiger,
voilà.
Non, non.
Alors voilà. On a accès à
parce
d'autres
que
informations.
Il y avait pas accès, dans ton documentaire, les filles avec qui t'as couché, puis qui ont parlé de toi dans les médias, puis qui t'ont donné des chèques, qui vont être dans le documentaire. Je pense que non. Je pense que ces femmes-là, on a déjà.
Est-ce que t'as aimé ce documentaire?
Ben moi, je connaissais pas. Je veux dire, je connais Tiger Woods. Je sais que c'est un des meilleurs de tous les temps. J'ai déjà vu une couple de trucs quand même, mais pas plus que ça. Je savais pas, moi. Je savais pas qu'il avait été comme drivé, là, carrément. Là, tu sais, genre, tu vas faire ça jusque. Il y a des images de lui, il est tout petit, là, tu sais, puis qu'il faut qu'il pote la télé. Puis ils sont
avec
comme...
Bob Hope, qui est mal à l'aise.
Incroyable. Puis à un moment donné, il demande, c'est genre, hey, t'aimes-tu ça jouer au golf? Puis tu sais, I wanna go poupou. Tu sais, il est à ce niveau-là. Là,
il y a deux ans.
Il veut aller faire caca au lieu de jouer au golf. Puis tout le monde est comme. Vous êtes pas des monstres en ce moment d'obliger un enfant.
Le documentaire est tiré du livre. Et dans le livre, Bob Hope, il mentionne que c'est bizarre ce qu'ils font à l'enfant. Bob Hope, il dit, ouais, c'est pas bon ça.
C'est
0-0 bon, là. Mais tu sais, ça donnait. C'est ça qui est weird de toutes ces affaires-là, c'est que. Tu sais, Michael Jordan, c'est un malade mental, là, comme carrément un des pires assauts qu'il n'y a pas. Ça a donné le meilleur joueur de tous les temps. Tiger Woods, genre, pas un humain, là, on s'entend. Là. Il a comme été, comme depuis son enfance, tu vas être le meilleur de tous les temps, puis il est devenu. Tu sais, je veux dire, bon, il a quand même, c'est contestable, mais il est devenu excellent. C'est juste qu'il a tout sacrifié son humanité au complet pour devenir ça. Ça vaut-tu vraiment la peine? Je ne sais pas trop.
Ouais.
Mais moi, ça m'intéresse ces documentaires-là parce que le rapport avec, entre la vedette puis le public, comment nous, on départage ça. Tu sais, comme, honnêtement, tu regardes Tiger Woods jouer puis t'es comme... C'est galvanisant. Là. T'es comme, oh mon Dieu, il est tellement bon. Il a fait ce trou-là, peut pas croire. Même après avec Michael Jordan, il fait des shots que t'es comme, OK, mais t'es pas un humain dans le fond, t'es comme une autre affaire. Ça nous donne espoir qu'on peut être plus que ce qu'on est. Mais en même temps, c'est des mardes souvent. Là. Pas tout le temps, là, mais comme des. C'est pas des
super. C'est pas juste des mardes envers les autres.
Ouais.
Leur vie a l'air d'une. Ils sont tout le temps en douleur. Je veux dire. Un truc qui a fait tomber... c'est plus documenté dans le livre que dans le documentaire, c'est qu'il était sur toutes les pilules.
Ah ouais, non, c'est ça, mais écoute...
Parce qu'il se fait opérer, quand il se fait opérer au dos puis au genou, cela fait mal. Ouais. Alors, il est sur toutes les pilules, il n'arrive pas à dormir, il est tout le temps en souffrance. Là.
Mais la vidéo où il se fait arrêter, je disais ça...
Ah ouais.
Je sais même pas c'est quoi...
J'ai jamais été arrêté de même.
J'ai
essayé.
Jamais
puis je suis jamais rendu là, man. Puis j'ai déjà voulu. J'ai voulu avoir un œil ici, un autre là.
Puis lui, non. Il est en train de conduire. Probablement une voiture, il va beaucoup trop vite pour.
Quand j'allaitais la nuit, ça ressemblait à ça.
Il fait l'alphabet à l'envers. Mauve.
Oh, il demande. Oh, t'es où? J'étais en Californie. T'es en Floride, chérie. T'es en Floride, man. Je sais pas pourquoi tu nous parles de la Californie, man.
C'est la même affaire. T'es où? Dans la Californie. Avec les cinq coules.
Aussi, dans le documentaire, c'est montré que... Puis aussi, dans le livre, dès sa naissance, c'est un projet de son père. Son père voulait faire de ce petit garçon-là le meilleur joueur de golf au monde. Ce qui est tellement un projet bizarre, là.
Ben, parce que lui, il voulait ça, tout simplement, là, tu sais.
Mais
il aurait
déjà,
voulu
c'est...
que ça soit lui, tu sais.
Mais c'est étrange quand même.
Mais c'est tout le temps ça. Là. C'est tout le temps comme les grands athlètes, tout le temps le père qui est comme « Non, non, écoute, tu vas aller lui montrer tous mes échecs. Ça va pas se poser, là. Viens rattraper tout ce que j'ai raté. »
C'est la quintessence du père qui se bug l'arbitre à l'aréna.
Ouais, tout à fait.
C'est vraiment là. Puis aussi, ce qui est fucked up avec cette histoire-là, c'est qu'il y a bien des pères qui font « Ah, mais ça marche. »
Ouais, c'est ça. Faut juste que tu commences tôt.
Puis aussi, c'est pour ça que ça marche pas.
J'ai pas commencé assez tôt.
Ouais, c'est ça, ma discipline.
Ouais, mon fils, c'est que je crie, faut que je fasse genre 15 fois plus. Une fois, il y a un documentaire sur Netflix, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des pères avec leurs enfants.
OK.
Des jeunes athlètes de comme 13-14 ans. Puis ce qui est drôle dans les trois cas, c'est que tu vois que les petits gars, ils ont pas ce qu'il faut pour se ramasser dans les comme il y a un père avec des spikes puis bleaché. Qui vu que mon fils rentre en NBA, mais c'est un petit blanc qui va jamais mesurer plus que 6 pieds 1. Fait que je doute que tu te rendes dans la NBA. Il y en a un autre qui c'était le fucked up. Il voulait que son fils soit le meilleur safety dans la NFL. Ce qui est le rêve le plus bizarre au monde.
C'est assez niché quand même.
Il l'entraîne dans un parc, puis il fait quelque chose de tellement agressif pour avoir joué au football. Il tient par le casque, il tire vers lui. Ce qui est la chose la plus agressante que tu peux pas vivre, te faire quand tirer par un masque. Non, mais c'est vraiment. Je trouve ça vraiment weird, les pères qui voient ça comme modèle, puis qui font « Mais si ça marchait pour Wayne Gretzky, puis si ça marchait pour Tiger Woods, il faut que je crie après mon fils. »
Tu dis les pères, il y a des mères aussi. Tu sais, moi, je faisais de la danse quand j'étais jeune, puis tout, puis tu sais, il y a toute l'émission Dance Mom, c'est ça aussi, là. On dit les pères depuis tantôt.
Ouais. Non, mais c'est vrai, j'ai une anecdote là-dessus. Je ne me rappelle plus dans quel documentaire, mais Wayne Gretzky, à un moment donné, il parle de... Il y a une mère qui vient le voir avec son fils, tu sais, qui joue au hockey, puis elle est comme, ben là, on a de la misère, là. On a de la misère avec lui, là, il est pas assez bon, là. Fait que là, dis-y combien d'heures par jour tu pratiquais, là, pour qu'il fasse la même affaire, pour qu'il devienne comme toi, puis c'est bien comme, hey, c'est-tu quoi, j'ai aucune idée, tu sais. Aucune idée de combien d'heures je pratiquais. Je faisais juste ça parce que j'aimais ça, puis ça a donné que j'aimais vraiment beaucoup ça, puis je suis devenu comme le meilleur, mais. J'ai jamais comme calculé, tu sais, il est supposé avoir du fun, ton gars, là, tu sais, c'est pas obligé, là, qu'il fasse 8 heures par jour de hockey.
C'est un jeu.
Fait quoi? Ouais.
Ouais.
Mais c'est drôle, de, tu sais, justement, dans le documentaire de Tiger Woods, le père, il raconte ça comme si c'était une bonne anecdote, puis c'est quand même placé dans le documentaire comme si c'était vraiment inspirant, là, il est comme, on plaçait le bébé dans sa chaise haute, je drivais, puis là, le bébé, il suivait les balles, c'est comme, aïe, aïe, c'est de la torture, là, tu sais, celui qui suivait les balles, qui voulait qu'il fasse d'autres, comme... c'est comme genre pour dire il était intéressé bébé. Ben non, tabarnak, il était pas intéressé bébé à jouer au golf, un sport de mononcle. De quoi tu parles, un black bébé, lui, le golf. Là, il était comme...
Imagine qu'on place nos enfants dans le coin pendant les podcasts. C'est comme, pendant les podcasts! Regardez papa et maman parler dans un micro pendant 4 heures.
Avec son petit micro Fisher-Price. Voyons donc. Sacre.
Le bout qui monte pas dans le documentaire, il me semble, qui est très documenté dans le livre, c'est le problème d'alcool de son père.
Ah ouais, 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 il en parle.
Quand
un petit peu,
mais mon père est pas là, puis c'est triste. La raison pourquoi le père est pas là, c'est qu'il se saoulait d'un country club pendant les tournois, puis il allait dire son opinion au monde. Il allait voir du monde de PGA, et lui disait.
Qu'est-ce que je ferais dans un country club?
Ouais, c'est genre, hey, les Noirs, on n'a pas d'espace en Amérique. Puis t'es comme, mais ouais, tu peux pas. T'as raison, mais pas ça au monde. La PGA, t'allais voir Tiger Woods, puis en fait, ton père, il saoule, puis il dit son opinion, puis c'est fini. Puis des fois, il siffle des filles, puis c'est weird. Là.
Puis ici, on n'est pas dans cette vibe-là tant que ça.
On l'est, mais on le cache.
Ben non, tu sais, c'est comme.
Le meilleur bout, c'est quand le gars du Masters, il fait ses dons, ben, le gars avait des maîtresses horribles. Oh, putain, t'en as pas, monsieur, qui vaut 17 millions de dollars. Là,
ouais, ouais, ouais. Mais tout l'aspect racisme est quand même intéressant dans ce documentaire-là aussi. Ouais, là, c'est comme, mets-toi à genoux, puis demande pardon. Puis, ce qui est weird en même temps, je veux dire, on dit que Tiger Woods, c'est un asshole, il y avait plein de maîtresses, puis tout ça, mais tu sais, je veux dire, c'est pas un crime là, non plus. Là, ouais. C'est comme c'était juste une vedette qui en profitait beaucoup. Là, faut qu'il s'excuse, puis tout ça, juste parce qu'il est black, finalement, puis qu'il est dans le milieu du golf. Là,
un truc qui m'a bouleversé, c'est le bout où il explique. Parce qu'il est pas.
C'est le bout du restaurant de déjeuner.
Bon, non, ça,
ça
on va y revenir. Le bout qui m'a bouleversé, c'est lui qui. Il veut pas choisir vraiment d'ethnicité parce qu'il dit, ben moi, je te mélange plein d'affaires.
Ouais, ouais, ouais.
C'est un discours qu'aujourd'hui, il y a tellement rapport. Ouais, ouais. J'ai pas envie d'appartenir à une seule ethnie. Je suis un mélange de plein d'affaires puis qui se fait blaster pour ça.
Ouais.
Les Noirs qui font, c'est quoi, t'as honte d'être noir? Puis j'ai pas honte d'être noir, c'est que j'ai un peu de sang vietnamien puis j'ai un peu de sang de ça. Mm-hmm. J'ai pas honte. C'est que j'ai
délicat aussi,
je trouve ça vraiment, vraiment rough. Et aussi, qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Ce truc dans les documentaires. Dans ce documentaire qu'ils veulent montrer, la passée populaire niaiseuse, ils montrent un extrait de stand-up.
Oui!
ouais, c'était quoi donc?
Ben, c'est Wanda Sykes qui fait yo! C'est quoi? Il va pas être noir, mais. Il y a ça sur le documentaire. Quand tu veux montrer rapidement ça une idée niaiseuse, il y a un humoriste qui a un bête là-dessus. Qui...
Mais ça, c'est quand même intéressant quand même, parce que oui, tu sais, Tiger, il est comme mélangé puis tout ça, mais quand the shit hit the fan, ah, guess what, t'es black.
Ouais.
C'est comme décidé, on n'en veut plus vraiment de toi, vas-y, là, avec... Puis les autres, c'est comme, mais non, on le veut pas, finalement.
Personne veut lui.
Ouais.
Le meilleur moment.
Le moment, tu sais, sa fameuse histoire avec l'hôtesse du restaurant de déjeuner, là, qui a été
une de ses
maîtresses les plus médiatisées. Puis, je sais, quand j'écoutais le documentaire, puis là, Mané la montre, un peu à son insu, sur son milieu de travail. En tout cas, elle a manifestement signé un release parce qu'elle est dedans, là, mais en tout cas. Mais j'étais. Je regardais ça, puis j'étais comme. Ben voyons donc, tromper sa femme avec l'hôtesse du restaurant de déjeuner. Puis là, j'étais outrée. Mais pour ça, je me suis dit, ben je peux pas être outrée tant que ça, parce que quand le camion de vidange passe, j'ai quelque chose de rideau. Mais les gars!
T'as vu l'ouvrage?
Descends du camion. Les vidanges sont passées! Je comprends la vibe.
Hey, mais si tu réussis à avoir une aventure avec les boueurs, t'es quand même.
Je vais le savoir dans les contacts. Je vais le savoir. T'as-tu. Pourquoi tu sens les bananes pourrites? Les cigarettes.
Ah, j'ai pas sorti les poubelles.
Tes cheveux sentent le veau. Oui.
Ouais, mais t'aurais dû voir, il est hot. Il est très masculin.
C'était quoi, c'est
là,
la
des avant-bras.
Mais pour ceux qui ne savent pas, parce que Tiger Woods, il est tombé parce que c'est sorti qu'il y avait plein de maîtresses. Puis sa maîtresse la plus notoire, c'est l'hôtesse du restaurant à déjeuner où il allait manger avec sa famille.
C'est
l'affaire la plus pimp de tous les temps. Tu pognes l'hôtesse, tu pognes son numéro, tu couches avec aussi dans son garage, puis tu vas manger avec ta famille après. C'est...
Ouais, faut que tu cruises dans le court moment où tu vas payer un terrac au comptoir. Là, puis là, tu te trompes de carte. Pis, OK, ouais. Faudrait quand faut que tu sois habile quand même.
Il faut y donner.
Faut y donner ça à Tiger Woods. Il n'y a pas l'air de ça quand même. Il n'y a pas l'air de ça. Là. C'est pour ça que c'était aussi surprenant. Puis quand, oh mon Dieu.
Ouais.
Mais moi, ça me fascine quand même. Puis ce qui pourra nous amener au documentaire de Britney Spears.
Yes.
Ça me fascine quand même ce niveau de stardom-là. Moi, je pense que personne peut soutenir ça. Puis rester quelqu'un de sain, normal. Tu sais, à un moment donné, on parle dans le documentaire, comme il sort de chez eux, c'est fini, là. C'est terminé. Il ne peut plus sortir de chez eux sans se faire assaillir. Puis ce que ça fait au cerveau, ça, c'est... Les gens n'ont pas l'air de réaliser. Je pense que tout le monde est comme, hey, « j'aimerais ça être connu comme ça, c'est donc bien hot, ce monde, c'est des dieux grecs, puis tout ça. » Mais pour vrai, on donne le choix, là. Demain matin, t'as plus de vie privée. Tout le monde est après toi. T'es full riche, là, mais t'es dans une prison. Ta maison, c'est une prison. Là. T'as tout ce que tu veux, puis tout ça. Mais niveau social, puis ça, c'est terminé. Là. Mm-hmm. Puis tout le monde autour de toi est suspect, tout d'un coup. Mm-hmm. Parce qu'il y en a qui c'est pour l'argent, il y en a qui sont comme te protègent, te disent jamais la vérité, puis tout ça. Qui veut ça, sincèrement, puis qui est capable de rester sain au travers de ça? Personne, je pense.
Ben, y a le rapper Yes Making qui a un podcast qui mentionnait quand ça va bien tes affaires, t'as l'impression que t'es un peu une lumière, tu jaillis. Puis tout le monde qui s'approche de toi veut se brancher à toi, puis ça suce ton énergie. Mm. Mais c'est, puis lui, il a juste joué dans la figureuse, là.
Ouais.
C'est quand même.
Il a pas gagné le master, là. C'est ça.
Imagine, c'était.
Puis saison 2, c'est là, plus personne se branche.
J'ai plein de plugs!
Mais si t'es une légende sur deux pattes, t'es historique, ça doit être d'une lourdeur infinie. Mais moi, c'est le truc que j'ai pas lu dans le livre. Peut-être parce que j'ai lu trop vite, ou je veux pas lire. C'est pas surprenant. Moi, je pensais que c'était juste un gars qui couchait avec des prostituées. T'es un gars, il va à Vegas. Tu signes un chèque, tu peux coucher avec des filles.
Non, il était très genre lover manipulation, mais c'est juste narcissique à quelque part. Il veut que les filles tombent en amour avec lui. Il est comme ça. Next level. Ouais. Toutes les filles sont comme,
je l'aimais tellement déçue. Oui. Je pensais que j'étais la seule.
On passait des heures à jaser.
Ouais. Avec moi, il prenait pas ses pilules pour dormir.
Ouais.
Il y en a un qui dit ça. Avec moi, il s'endormait. Moi, ce qu'on faisait souvent, c'est je caressais ses cheveux pendant qu'il dormait.
Mais c'est ça qui est fascinant. C'est parce que tout ça a rapport avec son stardom, parce que lui, il est pas capable d'avoir des vraies relations avec les gens.
Ouais.
Fait comme il est fake, il manipule de l'amour. Il veut de l'amour de plusieurs personnes dans un cadre, tu sais, comme intime, parce qu'il y a ça nulle part. Il essaie d'avoir ça en plein d'endroits différents. J'imagine qu'il y en a plusieurs qui font ça, là, tu sais. Mm-hmm. Mais ouais, c'est des
filles. Les filles sont en amour. Je veux dire, il y a une dame qui l'expliquait là, dans le documentaire, on est en 2021. T'es encore en amour. Mm. T'arrives genre des années 2010. T'es encore en amour.
Ben écoute, je veux pas être malaisant, mais dans le documentaire de Michael Jackson, c'est des adultes encore. Ouais, écoute, je t'en. Aïe, ok, c'est next level cette affaire-là. Fait quoi? Ouais. Tu sais, puis aussi, justement, là, tu parles de lumière qui jaillit. Là, tu sais, là, toi, tu travailles au restaurant de déjeuner, puis il y a Tiger Woods qui est comme. Ben, toi, t'es spécial.
Oui, je vais te prendre. 4 cafés filtres puis ton numéro de téléphone. Bien sûr!
Bien sûr. Puis tu sais, peut-être, j'en parle dans la voiture, mais je le crois. Aussi, les filles pouvaient tomber en amour parce que je me demande, peut-être que Tagoud, c'est aussi une des seules personnes avec qui. C'est un de leurs seuls clients qui était gentil avec elle.
Probablement, ouais.
Je veux dire, on parle de Michael Jordan qui était, moi, il faut tout le temps que je domine, puis je le prends personnel. J'ai l'impression qu'il était plus rough qu'avec ces filles-là. Que Tagoud, qui. Ben, j'ai vu ton numéro de téléphone. Mm-hmm. Puis je te texte. Puis j'ai un tournoi super important. J'aimerais ça juste qu'on soit dans la même chambre. C'est une intimité qui crée avec ces filles-là. Puis je peux comprendre que tu tombes en amour avec le gars le plus.
Il a besoin de moi pour gagner des tournois. Tu sais. Ouais.
Puis on
c'est
le
niveau ultime de la manipulation. C'est weird.
Hey, j'ai jamais eu ce discours-là avec des filles. Dans ma vingtaine, là, j'ai jamais joué dans ces eaux-là. C'est
spécial.
Ben non, voyons, juste Tiger Woods qui a fait ça. J'étais comme, attends, bon, les gars font ça. Moi, là.
Mais c'est sûr que lui-même, il devait même pas s'en rendre compte. Là. Il devait être comme, c'est sincère pour lui, probablement, toutes ces relations-là. Ouais. C'est juste qu'il comprend qu'il faut toutes les compartimenter puis ça peut pas rentrer. Mais il savait bien qu'à un moment donné, tout ça allait crasher puis exploser. Il y avait beaucoup d'autodestruction, d'après moi, là-dedans. Là, il devait être tanné d'être parfait aussi. Là.
Excuse-moi de t'interrompre, mais le but, pour ceux qui savent pas, Tiger Woods, vu que son père était un Marines, il a fait la guerre du Vietnam, c'est là qu'il a rencontré sa mère. Il se sentait toujours, parce que vu qu'il admirait son père, je suis pas aussi hot que mon père parce que j'ai pas fait mon entraînement militaire.
Oui, alors, ça, c'est crazy.
Oui, il va faire en secret un entraînement de Marines avec des militaires, mais un entraînement du genre, les gars, ils expliquaient que pour s'entraîner, tu dois.
Se battre entre eux.
Non, tu dois te faire assaillir
ouais.
par plusieurs hommes, puis gérer ça. Puis
ils simulent du combat.
Pardon.
C'est où?
OK. Parle-en plus lentement. Vas-y.
Et les gars racontaient, on le faisait partout à part ses mains vu que c'est un golfeur.
Ouais.
Puis que son genou gauche, il disait, ouais, le genou gauche, c'est là qu'il se faisait.
C'est fait,
parce que ses blessures au genou gauche, c'est un gros truc intérieur qui a changé sa vie, Tiger Woods, là, sa blessure.
Ouais.
Puis c'est génial parce que un truc, j'étais ado, puis je me demandais ça. Pourquoi t'as Tiger Woods, il a mal au genou. Je veux dire, c'est un golfeur. C'est quand même pas un joueur de soccer. Ben oui. Entre ses tournois, il va se faire battre par des Marines pour essayer d'être comme son père mort. Cool.
Ça prouve à quel point...
It shoes.
T'imagines, t'es le meilleur golfeur au monde puis tu te sens quand même inadéquat parce que t'as pas ton entraînement militaire.
Je comprends.
On n'est jamais content.
Ouais, surtout quand on a un père qui nous installe dans le...
J'aime le golf!
Berceau check, les balles que je drive.
Oui, puis t'expliquer que son entraînement, c'était aussi, ça venait un petit peu de la psychologie militaire. Exemple, le golf, un sport silencieux, il disait, pendant sa jeunesse, ce qu'il faisait, mettons, quand tu te prépares à poter, il passe à côté de toi, il te pousse.
Ah oui, il criait.
Ouais.
Jouait avec son change dans ses poches, envoyait des phrases, fuck-toi, puis il disait, c'est très sexuel en plus, c'est très BDSM, parce qu'il disait... Il y a un mot. Si tu me dis le mot, j'arrête. Il y a un safe word.
Ah ouais, il y a un safe word.
Il disait là, dans le documentaire, il y a un safe word. Si tu dis pas le safe word, tu vas être invincible. Mais il disait ça quand il avait comme 8 ans. Là.
Incroyable.
Il y avait un safe word avec son père.
C'est beau. J'espère que Britney aussi a un safe word avec son père. Ouais.
Je pense qu'il a été dit plusieurs fois et il n'a pas été écouté.
Oh, Seigneur.
Qu'est-ce que vous avez pensé de Free Britney?
C'est un très mauvais documentaire.
Merci!
C'est très mauvais, mais il y a plein d'informations intéressantes quand même.
C'est ça.
Mais
pourquoi il parle devant un fond en faux gazon?
Ouais, le Garden Party.
New York Times ont raté leur coup là, avec ça. Là,
merci de le mentionner.
Puis la matière est tellement intéressante.
Ouais, non, c'est ça. Ça donne envie de voir un bon documentaire sur Britney. Ce documentaire-là.
Mais d'un côté, tu fais, ben la petite, je retire ce que j'ai dit, la femme a assez souffert. Fais d'autres documentaires sur... un autre documentaire sur Michael Jordan ou Charles Barkley. La fille a souffert. Arrêtez de tirer plein d'affaires.
Ouais. Non, mais je pense... Mais quand même, je pense qu'il y a un recul qui était vraiment nécessaire et important sur cette époque-là. Mm-hmm. Tu sais, les pop stars des 90s, la manière qu'on les traitait. Tu vois toutes les jokes de Late Night Show là, sur Britney. Puis ça, c'est super malaisant. Puis tu réalises avec du recul. Tu sais, moi, je veux dire, dans le temps, j'entendais ça puis ça me dérangeait pas. J'étais comme, oui, Britney, elle mérite. C'est assez folle. Puis
vierge,
tout ça. Puis là, tu regardes ça à nouveau. T'es comme, mon Dieu, c'était épouvantable ce qu'on a fait à cette femme-là. Ça,
moi, j'étais plus jeune. Moi, je suis né en 88. Fait que j'avais 11-12 ans. Donc, dans mon adolescence, quand j'avais Britney Spears, et j'ai toujours pensé, puis ça me fait penser à toi, que c'est comme la lutte. Je croyais que c'était comme la heel. Elle savait tout, elle manipulait. C'était correct ce qu'on dit sur moi.
Elle savait ce qu'elle faisait, là. Ouais.
Vous dites que je suis une pute, mais c'est voulu qu'on dise que je suis une pute, puis je joue avec ça, puis je suis bien avec ma sexualité. Ben non.
Non, le bout ou Kapler, c'était comme un signal que c'était pas tant voulu, tu sais. Ou elle pleure à la télé nationale.
Ouais.
Ben parce qu'elle se fait dire qu'elle est un mauvais exemple pour les enfants. Pis...
C'est incroyable.
Commercialiser la sexualité d'une adolescente, c'est fascinant.
Ah non, c'est fou.
C'est fascinant. Puis comme tu dis, c'était ancré. T'sais, comme tout le monde laissait ça aller, ben, pas tout le monde, mais je veux dire, comme globalement, là, ça s'est passé sur plusieurs années. Pis...
Je vais le mentionner, les Backstreet Boys, c'est le projet d'un pédophile.
Oui.
Le gérant, puis l'idéateur...
Ah ouais, il était pédophile, lui.
C'est un pédophile.
Je sais qu'ils ont volé, puis tout ça, mais je savais
pas. C'est un pédophile, il était reconnu coupable. Okay. C'est un pédophile. C'est une poussie. Quand tu y repenses, tu fais, mais ça va de soi. C'est une idée pédophile. Je vais prendre des petits gars qui vont exciter sexuellement des filles de 13 ans pour qu'ils me donnent de l'argent.
Mm-hmm.
C'est un projet pédophile.
Mm-hmm.
Ah, c'est fou. Mais tu sais, Britney, j'ai l'impression que c'est comme... C'était l'Amérique qui se parlait à soi-même. Là. Mm-hmm. Est-ce que j'ai hâte des ados quand il y a des petites robes et tout ça en même temps? Hey, pas bon ça! Mm-hmm. C'est vraiment épouvantable
de penser Bush, ça. Hein, faut pas mentionner que Bush, c'était la droite américaine qui l'a mis au pouvoir. Là.
Ouais.
C'était aussi, fais-moi bander, mais en même temps, faut que honte de me faire bander parce que Jésus veut pas, tu sais.
Mm-hmm.
Ouais, puis c'est de ta faute si tu m'as fait bander, certainement pas de ma faute.
C'est du king shame.
Ah, voilà! Mais il y a aussi, je trouve que, autant aussi dans le documentaire de Tiger que dans le documentaire de Britney, c'est qu'on voit toute la culture paparazzi aussi.
Ouais, intense.
Qui a quand même un peu changé avec le temps, avec les médias sociaux, je pense. Maintenant, tu sais, les vedettes, ils donnent accès à leur intimité un peu plus. Ouais,
contrôlent un peu plus le message.
Contrôlent un peu plus ça. Mais la culture du paparazzi, c'est... Des fois, je me dis, comment expliquer... Mettons, à nos enfants, là, tu sais, que justement, ils vont naître plus dans l'ère des réseaux sociaux, puis de tout ça, de dire, avant, on n'avait pas accès aux vedettes, fait que Lady Di est morte à cause de ça.
Ouais, non, c'est ça. Mais il y a encore de ça quand même. Oui. TMZ puis tout ça, des fois, tu vois des affaires, t'es comme, vous êtes harcelant là, quand même.
Ouais, ouais, ouais.
Mais ouais, c'est très bizarre ça. D'ailleurs, il y en a un à un moment donné, le fameux paparazzi là,
qui l'a photographié en train
la fameuse scène où elle pète une coche puis tout ça. Puis lui, il comprend toujours pas. Là. Ben, elle voulait quand même. Ça lui servait pareil. C'est comme, mais elle disait non. Ouais, mais pour cette fois-là. Pas pour toutes les autres fois d'après. Ah, qu'elles disent non à chaque fois pour que tu catches.
Ouais.
Non, c'est fascinant, tout ça. Mais ce qui fait en sorte que je trouve que c'est un mauvais documentaire, c'est que sont pas capables d'amener cette critique-là à leur propre documentaire, dans le sens que il y a beaucoup de toutes les followers de Britney, je sais pas comment ils s'appellent, là, les Free Britney. Brit Army ou Free Britney, ça c'est le mot clic, mais en tout cas, ce sont bien intenses. Puis eux autres. Genre, ils lisent ces messages, ils hallucinent que Britney leur parle, ils idolâtrent quelqu'un. Ouais, ça, c'est un culte, le culte de Britney, puis je pense qu'elle veut qu'on la sauve, puis ça, c'est comme, OK, vous voyez jamais que ces gens-là ont pas bien dans leur tête, là. Mm-hmm. Ils leur donnent full de place, ils leur donnent une tribune, ils peuvent parler, puis ça, mais tu vois que ces gens-là, ils sont pas bien dans leur tête, là. Ils mettent Britney sur un piédestal.
T'as vraiment envie de dire à ces gars-là qui ont un haut-parleur rose, puis qui font Free Britney! T'as envie de les prendre, leur dire, et si t'appelais ton père?
Peut-être pas une bonne idée en même temps.
Si d'un coup, au fond, là, ce que tu veux, c'est aller à Noël avec ton chum chez ton père, si ça, là, tu l'avais, tu penses-tu que tu voudrais autant Britney Spears à se faire sauver? Ben, peut-être pas. Ouais. Il y a une détresse humaine dans ces petits gars-là et ces petites filles-là. Là.
Ouais. Tu vois qu'ils sont pas toutes là. Puis, c'est ça, je trouve qu'il y a trop de place à ces gens-là dans le documentaire.
Oui, puis aucune critique. Oh oui, il y a du monde là, devant, en Californie, qui savent exactement tout ce qui a été écrit dans les trucs de Britney Spears, ça c'est super sain. Puis des gens qui font de l'argent avec un podcast sur l'Instagram de Britney Spears, ça c'est tout à fait adéquat.
Mais c'est assez impressionnant ça. Je vais aller écouter ce podcast-là. Il parle de l'Instagram de Britney Spears pendant des heures.
Des heures.
Ouais. Cool. Ouais. C'est pas du tout un problème.
Juste avant, il y a un live read. Bonjour, ZipRecruiter, si jamais vous cherchez des employés.
Incroyable. Ouais, mais c'est ça, j'ai trouvé ça malaisant dans ce documentaire. Je suis comme, OK, vous pouvez faire autocritique aussi de ce qui se passe en ce moment, puis c'est pas parce qu'ils pensent vouloir le bien de Britney qu'ils ont nécessairement raison. Puis ça aboutit un peu en queue de poisson, finalement, ce documentaire-là. Mais toute la passe où tu vois la montée de Britney, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment fascinant. Puis je veux dire, ça a donné un mouvement, là. Justin Timberlake s'est excusé.
Ouais.
Ça n'a pas passé du tout, mais...
Qu'est-ce que tu vous pensais de ça? Parce qu'un truc que... Moi, j'ai retenu des documentaires, c'est à quel point la pression médiatique sur quelqu'un, ça fait mal, puis c'est pas bon pour la santé mentale.
Mm-hmm.
Faut pas blaster le monde. Documentaire fini, on va aller blaster Justin Timberlake parce qu'il y a 20 ans, dans une entrevue à radio, il était un peu whack. Sur ça, on n'est pas obligé de tout le temps, dans la culture populaire, de... faire mal à quelqu'un.
Mm-hmm.
On est pas, pour exister, on n'a pas tout le temps besoin d'avoir un martyr.
Mais je pense que les gens manquent d'autocritique là-dessus, parce que je pense que quand tu regardes ça, tu regardes ce qui s'est passé dans le passé, c'est toi-même que tu devrais faire comme, moi j'ai jamais rien dit là, à cette époque-là. Là. Fait que si je dis de quoi là, tu sais, je veux dire, ça m'a pris genre un beau petit montage vidéo là, de tous les moments où Justin Timberlake était un cave, mais à l'époque, je l'aimais, puis j'ai entendu ces affaires-là, puis j'avais rien dit, tu sais. Fait que je pense que c'est important quand même d'avoir une autocritique, faire comme « Ah, moi aussi, je faisais partie de cette culture-là. Mm-hmm. » Puis les choses changent, puis c'est positif. Mais ouais, effectivement, si je l'ai vu, là, l'espèce de thread là, où toutes les affaires que Justin Timberlake a dit, c'était assez épouvantable quand même. Je savais pas que c'était si pire que ça. Là. Il était pas fin. Il a pas été fin. Puis avec plusieurs femmes aussi. Tu sais, pour moi, il est dans le même range que genre John Mayer. Puis ça, comme à l'époque, c'était waouh, les gars sont hot. Ils utilisent plein de femmes. Puis là, c'est comme ah ouais, en 2021, c'est pas bon du tout de faire ça finalement. Cool. On a réalisé que détruire des femmes, c'était pas cool.
Ouais.
Ça nous a pris du temps, mais on est rendu là. C'est assez fascinant.
Oh. Sinon, un autre documentaire que je veux discuter avec toi, c'est dans le podcast avec Julien Bernatchez, je porte un t-shirt des Bee Gees.
Ouais.
Tu m'as écrit.
Moi, j'ai écrit pour ça.
Si, pour vrai, j'ai porté mon t-shirt des Bee Gees en disant quelqu'un va remarquer.
Te lancer ça dans l'univers.
C'est Guillaume Bagnère!
C'est Guillaume.
Qui aurait cru?
Complètement disco. Je venais de l'écouter, j'ai vu ça, je suis comme, je suis sûr également à cause de ça, je vais aller en parler.
Comme documentaire, c'est très réussi.
Ça, c'était,
ouais. Ouais, mais surtout, moi, je connaissais rien. connais rien des Bee Gees. Mes parents avaient les disques, là, tu sais, puis même les disques avant le disco, là, ils aimaient bien ça, mais tu sais, j'ai jamais écouté, je connais les hits, puis tout ça. Mais finalement, c'est une histoire fascinante, vraiment, là, vraiment incroyable, puis il y a plusieurs layers quand même, on va en parler, mais j'étais pas au courant, tu sais, comme, c'est un tour de force que tu finis un documentaire, puis tu fais comme... J'aime ça le disco, dans le fond. Je devrais défendre le disco. On n'aurait pas dû chier sur le disco. C'est quand même fort, pareil, de finir un documentaire puis d'aller écouter du disco.
Il y a un auteur que j'adore. C'est un, je l'appelle le philosophe de la culture populaire. Lui, il prend des trucs de culture populaire et il va au fond des choses. Il s'appelle Chuck Klosterman. Et lui, sa vision du disco, c'est avec le recul. 50 ans plus tard, à l'époque, le mouvement punk, c'est le mouvement punk. Mais quand tu y repasses, le mouvement punk, c'est juste... des gosses de riches qui se mettent du cuir puis qui disent « fuck mes parents ».
Ouais, du monde de banlieue, puis ils sont
forts. Le vrai mouvement punk, c'était le mouvement disco parce que c'était des homosexuels et des noirs qui disaient « on existe, notre sexualité est en rapport, on veut être dans la société ». C'est bien plus punk. Dire s'aimer, même si c'est pas une relation monogame entre un gars et une femme, c'est tout à fait adéquat.
Ah, puis il y a quelque chose d'innovateur dans le disco, puis c'est ancré dans plusieurs musiques noires vraiment intéressantes. C'est un blend qui est quand même puissant, là, tu sais. Tu peux rire des Bee Gees, mais imagine-toi entendre pour la première fois, c'est sûr que t'es comme « oh shit! »
La base! C'est fou!
C'était écœurant. Puis tu sais, je veux dire, le disco, c'est la pop d'aujourd'hui, là. Je m'excuse, là, mais tu sais, je veux dire, Michael Jackson, il faisait du disco au début, puis à un moment donné, il a comme migré tranquillement, il a transformé ça en une espèce de pop plus digeste pour tout le monde. Ben, peut-être pas nécessairement digeste, les gens aimaient le disco, mais il a vraiment pris les qualités de ça, puis il en a fait quelque chose d'autre, puis ça a donné la pop qu'on a aujourd'hui, mais ça part du disco, là. Je peux pas croire que je suis là en ce moment, dans un podcast, à défendre le disco.
Puis aussi, mentionnons-le, les musiciens disco ont beaucoup plus de talent que les musiciens punk.
Ben, pas nécessairement beaucoup plus de talent.
Quand ça, oui, là. Ça, c'est... Mais les musiciens punk, c'est pas leur qualité.
Il y a
plus de finesse.
C'était voulu. C'était voulu faire des accords faciles. C'était voulu.
Ouais. Sid Vicious, c'était minimaliste.
Sid Vicious, c'était le bassiste. Mais souvent, dans les concerts, la base, c'était pas branché parce que c'était pas joué.
Ouais,
c'était
la mascotte.
C'était un homme drôle. C'est drôle. Puis il a tué sa femme avec un couteau.
Fait que c'était pas ça. Ouais, non, c'est ça. Ça a mal fini, cette histoire-là.
C'est bon, ben.
Les Sex Pistols, en général, ça a mal fini. Là,
mais ouais, ben moi j'ai adoré le. Moi je viens d'une famille disco.
Ça m'a capote. Oui.
Je viens d'une famille disco élaborée.
Oui, alors une famille disco, c'est comment ça se passe?
Tout le monde a des cols, là, tu sais. Tout le temps.
On porte des débardeurs avec rien en dessous.
Toujours un petit peu de même.
Non, mais c'est ça, ma mère a trippé sur le disco. Puis,
sa mère est tout le temps à patin roulé. Tout le temps, là,
c'est
le roller girl dans Boogie Night.
Mais non, c'est ça, fait que je connaissais bien le disco, les Bee Gees et tout ça. Mais ben moi, ce que je trouve fascinant, puis ça m'a aussi fait penser à toi, parce que c'est un groupe, en fait, de frères.
Ouais.
Toi, tu sors avec une fille qui est dans un groupe de sœurs. Puis
Ouais, j'y en ai parlé aussi. Puis effectivement, tu sais, quand tu fais de la musique avec... ta soeur ou ton frère depuis que t'es jeune à un moment donné, c'est comme... Parce qu'ils se séparent à un moment donné, ils sont juste plus capables.
Ben oui.
Mais ouais, c'est assez particulier comme dynamique parce que c'est chargé, mettons. C'est chargé. Oui.
Un des frères Gallagher qui est à Oasis l'a dit, il dit, ça fait des harmonies incroyables sur un CD, mais pour faire le CD, ça fait... Enfin, en tournée, c'est fucked up. Parce que après ça, les frères Gallagher, si vous aimez les relations des frères compliquées, là, les frères Gallagher, c'est quelque chose.
Mais ce que je trouve vraiment touchant dans la dynamique de frères dans ce groupe-là, c'est qu'il y a trois frères dans le groupe, les Bee Gees, puis il y avait un plus jeune frère, vraiment plus jeune.
Moi, je suis pas au courant de ça. Je le connaissais pas.
Puis on le voit dans le documentaire. Puis un moment donné, ben, tu vois que lui aussi, il essaye de faire de la musique, bien évidemment, puis ça marche pas autant que ses frères. Puis finalement, il tombe dans
la drogue. Que ça marche.
Ça marche mais pour les plus jeunes, là, je pense.
Ça marche plus fort que ses frères.
Vraiment un hit, puis après ça, ça retombe. Puis là, il tombe dans la drogue, puis il est mort à 30 ans, je pense.
Il prend tellement de cocaïne que son cœur fait « ça va faire », puis il arrête de battre. Il meurt d'une crise cardiaque à 30 ans.
C'est incroyable.
Puis sinon, on voit qu'ils sont vraiment d'excellents auteurs-compositeurs. Tu sais, puis que leur œuvre a été reprise par de nombreux artistes et tout ça. Puis d'ailleurs, le seul Bee Gees qui reste, Barry, c'est ça qu'il dit, c'est un peu la morale du documentaire, que de tout ce qu'il veut laisser comme leg, c'est vraiment son leg d'auteur compositeur dans lequel
il était bon pour vrai. Tu sais, comme si vous aimez pas le disco, vous pouvez aller écouter les disques avant le disco des Bee Gees.
Avant qu'il chante aigu.
Ouais, c'est ouais. ça. C'était comme plus rock, folkish. Ouais, c'était la musique de l'époque, là. Puis c'est bon. C'est bon, c'est bien fait. Ouais. C'est vraiment de la musique de qualité, mais...
Puis un bout de génial où il comment il découvre qu'il chante en...
Le whistle
ouais.
note.
Ouais. Je me souviens pas trop, mais je pense que c'est un réalisateur qui leur dit... Fait là, ça nous prend des cœurs.
Ouais, je pense qu'il manquait une voix féminine.
J'ai pas envie vraiment d'appeler une choriste, mais le faire moi-même. Puis ça
c'était peut-être juste bon. Pour le démo, genre, hey, on va le montrer, puis tu sais, juste pour voir si ça marche, une voix plus aiguë. Puis là, il le fait, puis là, ils sont comme refais ça. Puis là, après ça, tous les frères le font, puis ça blende. C'est super sonique, là, ce son-là. C'est assez incroyable.
Ouais.
Peu importe ce que tu penses de ça, on peut rire de ça, mais ça marche. Là.
Oui, non, ça marche. C'est fou.
Oui.
Pis c'est une belle histoire sur le show business. Encore une fois, mm-hmm. eux autres sont au top. Là. T'sais, ils vont au cet album-là, là, Saturday Night Fever, je pense que c'est un des plus vendus de tous les temps. Là. Ouais, je sais pas si ça 4, probablement ça a été battu là, depuis, mais à l'époque, mm-hmm. plus vendus de tous les temps, sont au top. L'année d'après, tout le monde les haït.
Ouais.
Plus personne veut les voir. Ils les haïssent ouais. pour mourir. Mais c'est astique, le monde est cruel.
Puis aucune controverse.
Nos idoles! C'est comme, c'est ça. Les gens sont tout le temps, ils ont tout le temps ça à l'intérieur d'eux autres. Ça peut s'arrêter demain. Eux autres ne comprenaient pas. Ils étaient comme, ben là... Tout le monde nous aimait.
C'est drôle que tu dis ça encore, Chuck Lusterman, que ouais. je vais plugger tout le documentaire. Il explique. Il s'imagine dans la tête d'être Nickelback. Je vous explique. Nickelback, ils font un concert à guichet fermé. Puis pendant tout le concert, ils s'entendent pas jouer parce que le monde crie trop. Ils changent de ville, puis le lendemain, ils font une Zoo Radio le matin, puis leur dit hey, comment ça, tout le monde vous haït? Ben, personne nous haït, on remplit. Ça va être tellement bizarre de se faire haïr, mais en même temps être populaire.
Mm-hmm.
Parce ouais. que tu as du monde qui font yo, Nickelback, j'en ai jamais assez. Puis t'es une punchline. C'est tellement bizarre.
Ouais, ouais mais eux autres, c'était un phénomène social aussi. Là, c'était. Mm-hmm. C'était.
Mais en même
c'était
temps.
C'était raciste, c'était homophobe.
Dans un stade. Genre, ils jouent devant 71
ouais, 000 mais c'est ça, mais c'est en même temps un peu, là, comme ils racontent dans le documentaire, c'est comme un DJ, je pense, d'une radio, je sais pas trop, là, qui se met à chier sur le disco, puis ça devient un mouvement, puis là, ils vont... C'est-tu au Wrigley stade. Field? Ouais. Ou comme...
Non, c'est au stade des White Sox.
Okay.
C'est pas au Wrigley Field, c'est au stade parce qu'il y a deux équipes de baseball.
Ouais, ouais, ouais.
C'est au stade des White Sox.
Puis c'est ça, c'est comme amener vos 10 discos, on va les brûler, je pense, à la fin de la game ou à la...
C'est entre deux manches,
entre deux manches, OK. Puis,
très mauvaise idée.
Ouais, parce que
puis tout le monde, finalement, amène pas nécessairement des 10 discos, c'est des disques de noirs
ouais.
ou d'homosexuels. Ouais. Fait que c'est super homophobe, raciste, puis là, ils brûlent ça, puis sont comme « Disco sucks », puis tout ça, puis ça, ouais. ça a été la fin du disco.
Ouais.
Fait que c'était juste raciste, finalement.
Ouais.
Il y a un bout de génial de documentaire, parce que tu disais que souvent, il n'y a pas d'introspection. Il y a un gars dans le documentaire qui, homosexuel, a fait du disco, puis il a dit « Ben, je comprends, moi, pourquoi ils nous haïssent, c'est parce qu'on a abusé. » Nous, au début, c'était un mouvement social, puis là, c'est devenu un mouvement, on fait le plus d'argent possible.
Oui, il y en avait partout du disco.
Puis là, c'est coupé à, il y a une mascotte de canard qui fait une toune
ouais.
disco, puis il fait ça, c'est pour ça qu'il nous aille. Quand ouais. là, tu te mets un canard avec des rollerblades, puis tu fais une toune disco,
ouais.
ça se peut que le monde s'attend.
Ils ont mal géré ça. T'sais, mettons, le hip-hop a mieux géré ça un petit peu.
T'as raison.
Ouais. Ça a été plus. Ben, je pense que c'était plus détesté aussi.
Je sais
t'sais.
Pas.
Ouais, c'est ça. Il y a Lil Bow Wow, c'est le disco doc du hip-hop.
Lil Bow Wow, il était une influence. Il y a eu plusieurs Lil après. Lil Romeo, ce qui était le fils de Master P, je pense. Ouais, ouais, tu te rappelles pas de ça?
Je me souviens de ça, mais j'avais jamais pensé que Lil Bow Wow avait créé quelque chose.
Ah non, il y a eu plusieurs. Le rapper enfant, c'est quand même une niche là, que je pense. Ça doit plus exister, doit plus en avoir.
Lil Wayne a commencé son premier album il y a 14 ans.
Ouais. Ouais, ouais, puis tu savais que Lil Wayne, il n'avait pas le droit de curse word. Quand il a commencé, t'es comme, t'es trop jeune.
Wow.
C'est pas vraiment de quoi tu parles. Tu sais, eux autres, je veux dire, Cash Money Millionaire,
ben
c'est
oui.
comme, c'est vraiment, c'est que ça, là. Mais lui, il n'avait pas le droit. Parce qu'il était comme, peut-être qu'on vise la niche des plus jeunes, on le sait pas trop, mais juste pour t'améliorer aussi, t'as pas le droit d'utiliser ça, parce que t'as comme un défi. Puis c'est comme ça qu'il est devenu bon. Il essayait d'être aussi hard que les autres rappers dans Cash Money. Tout en n'ayant aucun curse word.
Plus de vocabulaire.
C'est ça. Ce qui a été bénéfique pour lui au
fascinant.
Final. Il a pas l'air d'un gars qui a du vocabulaire loin quand tu l'écoutes, mais il y en a.
Wow, j'avais aucune idée.
Ah.
Je suis tellement content d'apprendre ça.
Ouais.
Wow.
Ouais. Lil Wayne,
il a... Et il a découvert la codéine.
C'est autre chose.
Ça se
fait. Il y a eu un 3 ans, il était incroyable. Puis là, mais il est plus capable de parler.
Ouais. C'était... Il y a un moment où c'était le meilleur.
Mm-hmm.
C'était le meilleur rapper de... de ce moment-là, mais ouais, non, c'est plus... mais écoute, Lil Wayne, quelle légende. C'est juste le bout où il se fait interroger par la police, là. Ça, c'est l'affaire. Allez voir ça. Si vous connaissez pas cette vidéo-là, Lil Wayne qui se fait interroger par la police, ses réponses, ouais, c'est une après l'autre, c'est génial.
Il s'en fout.
Ouais,
il est habillé avec sa casquette, ses piercings dans les joues.
Il veut pas répondre. Des fois, il fait des jokes en répondant. Il est super arrogant. Il est parfait.
Il est incroyable.
Ouais.
Restons dans la veine du documentaire. C'est un truc que je veux parler avec toi, que ça date un peu, mais moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'est la série Les 5 prochains, qui était une idée de toi, si je me trompe pas.
Ouais, ouais, ouais.
Puis, je trouve que c'est tellement... Moi, une chose qui me frustre, en fait, en ce moment, avec comment on voit l'humour à la télévision, c'est qu'on met souvent les jeunes ensemble puis on dit « mangez-vous entre vous », là, puis il va en rester qu'un. Puis
merci de dire ça.
C'est une critique qu'on a déjà étayée à ce podcast. Mais justement, donc, je trouve qu'une série comme Les 5 prochains, ça mettait l'humour à l'écran de façon tellement intéressante. Donc... Parle-nous un peu de.
Il y a un épisode sur le corpo, c'est génial.
Ouais. Ben c'était en fait, l'idée était partie que. Moi, j'aime bien ça, j'aime les documentaires, on en parle depuis tantôt. Puis il y en avait quelques-uns sur l'humour en anglais. Tu t'as parlé de Comedian. Il y en a une couple d'autres.
I Am Comics, qui est aussi intéressant que
ça. Ouais, mais ça, c'est venu après, je pense, les 5 prochains, mais en tout cas, whatever. Il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas si mal. Mais je trouvais qu'à chaque fois, on montrait pas vraiment... En tout cas, au Québec, on n'avait jamais montré la réalité parce que c'est quand même une autre réalité aussi que les États-Unis. Là, mm-hmm. c'est, aux États-Unis, c'est des comedy clubs puis tout ça, c'est des petites places des fois qui sont crades. Mais nous autres, c'est autre chose. Là. Nous autres, on fait des bars de motards. Des fois, on fait des corpos, justement, des clubs de golf. Là, ça, c'est une affaire qui est récurrente. Puis j'étais comme, on voit jamais ça. Faudrait qu'on voit ça, des campings. Puis tout ça.
Le Saint-Cyboire qui est mythique.
Ouais. Tu sais, je voulais qu'on monte ça, qu'on monte cette espèce de... Parce que les gens ont comme l'impression que c'est ça, tu sortais de l'école de l'humour, tu faisais un gala, puis après ça, tu faisais une tournée. Puis mm-hmm. c'est comme ça dans la tête des gens, mais tout le monde a passé.
Entre l'école puis la Place des Arts, il y a que 3 semaines, ce qui est faux.
Mm-hmm. Ouais, non, c'est ça, il animait à McMasterville. Oui, José Hood, je te confirme. Fait que c'est ça, on voulait montrer ça. Puis on est allé all-in là-dedans. Là, je te dirais, là, comme je pense que c'était booké carrément pour que ça foire un peu. Là, le corpo de golf qu'on avait fait, c'était genre, on est rentré puis on fait comme ça, va chier solide, mais coudon. On est là pour ça, I guess. Mais ouais, on voulait vraiment montrer c'était quoi la réalité. C'est drôle, parce que ma blonde a écouté ça récemment parce qu'elle avait jamais vu, tu sais, tomber là-dessus. Quoi, c'est quoi ça? Puis là, elle riait tout le long.
Mais c'est très bien fait, c'est très réussi.
Ouais,
moi, j'aime pas ça, réécouter ça. C'est épouvantable pour moi.
Ah, comment ça?
Ah, je m'haïs là-dedans. Là. Je suis super arrogant. Je pense que j'ai tout compris, mais j'ai rien compris. Je suis vraiment... Mais c'est normal. La jeunesse, c'est ça. Là. Puis ça prend cette arrogance-là pour avancer dans le métier. Mais ça... je réécoute ça, puis je suis comme, oh my God. Kat Levac l'a écouté récemment, puis elle m'écrivait des messages en riant de nos répliques. Puis c'était son « hate watch », entre guillemets. Là, tu sais, oui. C'était comme, c'est un excellent « hate watch ». Mais ouais, puis il y en a eu, je pense, trois saisons de ça. Kat Levac l'a fait, d'ailleurs.
Ouais.
Est-ce que c'est disponible?
Je sais pas si c'est disponible. Moi,
tu veux pas que ce soit disponible?
J'ai une couple de DVD là, chez nous, je peux vous envoyer ça. Là. Mais non, ça doit être disponible, j'ai aucune idée, probablement. Mais
parce que aussi, il y avait un souci d'esthétisme. C'était très bien filmé.
Ça, c'est le réalisateur François Mété avec qui je suis resté ami, que je trouve vraiment, vraiment bon. C'est lui qui a fait la première saison de 24-7 aussi.
Cool. Okay.
C'est excellent. C'est très lui. Il est vraiment bon. C'est lui qui a rendu ça bon parce qu'il était très... Lui, il connaissait pas tant ce milieu-là, mais il était full intéressé. Puis c'est le genre de personne qui t'écoute puis qui est comme, donne-moi-en. Puis là, à un moment donné, t'en donnes trop. Puis t'es comme, ah, fuck, ça va être sur tête. Puis il garde ça.
Ouais.
Fait que ça, c'est la qualité d'un bon réalisateur de documentaire, j'imagine.
Ouais.
Il était vraiment bon pour aller soutirer des affaires qu'on voulait pas nécessairement dire. Mais moi, j'ai eu de la merde avec ça. Tu sais, j'avais... dans un épisode, à un moment donné, je parle de... On va dans un bar de motards, là. Je peux pas vraiment le dire, là, mais c'était quand... Je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment des motards, honnêtement, là, mais...
Pour en avoir parlé à Mike, oui.
Probablement. Mais tu sais, j'ai pas de confirmation, whatever. Tu sais, mais là, on va là, puis là, je chie là-dessus. Tu sais, genre, je dis... Oh, c'est épouvantable. Ouais.
OK.
Puis là, écoute, il était pas content. Ça passait à la télé. Mais en fait, moi, François m'avait appelé avant le réalisateur. Il m'a dit, garde, il y a ça. Tu chies un peu là-dessus. Je sais que c'est pas des enfants de cœur. Ça te dérange-tu que ça soit là? Puis je suis comme, mais m'en fous. Mais ça a pas passé. On a appelé Michel. Puis là, tu sais, il fallu que je m'excuse.
La pègre était fâchée.
Ouais. Fait que c'est ça, j'ai un peu de marde avec ça. Mais finalement, je suis retourné jouer là. Puis il y avait pas de problème. Mais ouais. J'ai eu des quelques sueurs froides à ce moment.
Waouh, ouais, hein. C'est plus le fun de se faire par Manaldrici que la pègre. À choisir. C'est Manaldrici, t'as des trucs ouais, Facebook, puis t'as du monde dans tes commentaires qui font les niaiseux. La pègre, c'est.
Non, c'est ça, là.
Bonjour, nous sommes les machines rock du métal. Oh, allô.
Ouais, Martin Matt, I can't stand that heat, mais. Les motards, moins.
Moins.
Oh, wow.
Mais attends, on va jaser, là. Qu'est-ce que t'as pas aimé que j'ai dit, là?
Fait qu'il faut que tu t'excuses avant Instagram. T'as pas pu rédiger de lettre d'excuse sur Instagram, qui est d'une forte tendance de nos jours.
Non, mais en même temps, j'étais comme, tu sais, je veux dire, je vais dans votre bar, puis genre, je fais des jokes sur tout le monde, puis vous comprenez mon style d'humour, fait que, tu sais, ça devrait pas vous insulter, puis on comprend, ouais, non, je comprends, puis tout ça, puis que.
Ouais.
Mais c'était un peu pour montrer comme, fais pas trop ça, tu sais.
Ouais.
Juste nous autres, on chie pas sur nous autres. Juste que tu le saches.
Ok, je vais le savoir. Parce qu'on peut te l'expliquer plus ardument.
D'autres
fois. C'est un PowerPoint. Avec des photos.
Lui, ça, c'est un exemple de quelqu'un qui rit de nous. Le connais-tu? Non, justement.
Parle-nous de ton podcast aussi. Une chose que je sais de ton podcast, c'est que quand tu reçois un invité, t'es extrêmement préparé. Chose qui n'est pas donnée à tous, même nous parfois.
Même moi. Moi, j'ai déjà mon podcast avec Sam Breton.
Ouais.
C'était après la naissance de notre enfant.
Ouais.
Je dormais pas.
Ouais.
J'ai aucune idée de ce qui se passe. J'ai aucune idée. Puis c'est juste. Puis merci à Sam.
Ouais, c'est ça. Dans ce temps-là, t'es content d'avoir un bon invité. Hein.
J'avais l'exprès. Je suis tellement fatigué, je vais me prendre un humoriste que
tu sais qu'il va être capable.
Il va être tellement drôle, il va tellement émaner. Que des fois, je pose une question. J'ai juste posé corpo. Difficile parfois.
Une bonne anecdote.
Puis il a fait, ben ouais, pas.
Mais c'est ça, je sais que tu te prépares extrêmement bien pour tes entrevues, puis que tu, par exemple, si tu reçois un auteur, tu lis le livre au complet.
Ouais. Incroyable.
Ah, non, mais c'est vrai. Pour vrai, c'est incroyable dans le domaine de la télé et ou média at large, incluant le podcast. Puis, fait que tu te prépares énormément. Comment tu gères ton temps puis la préparation de ce podcast-là?
C'est rough. Ouais. C'est honnêtement, c'est juste l'insécurité parce que, tu sais, je veux dire, moi, je voulais inviter beaucoup d'intellectuels, puis tu sais, que ce soit des historiens, des sociologues, des anthropologues, puis ça. Puis quand tu reçois ces gens-là, c'est pas comme jaser, là, relax avec un humoriste, puis on. Tu sais, je veux pas les anecdotes de brosse de Alain Deneau. Quoique.
Quoique.
Non, je suis d'accord. Quoique. C'est après qu'Alain Deneau, il disait, hey, moi, j'haïs pas ça, l'acide. J'ai découvert les affaires sur les paradis fiscaux sur l'acide.
La médiocratie, j'ai écrit ça sur l'acide. un bon documentaire, juste parenthèse, le documentaire sur Leonard Cohen, Leonard and Marianne, ça c'est bon. Puis là, on découvre qu'il était sur l'acide tout le temps. Leonard Cohen, il adorait, il est allé genre en Grèce pendant 2 ans écrire un roman sur l'acide et les speed au soleil. Il voulait jamais être à l'ombre, puis il écrivait ça, puis ça donnait une affaire complètement fucked up. Mais ouais, puis il jouait en show. Il prenait de l'acide et aussi genre une espèce de Quaalude, là, c'était pas ça, mais genre de calmant puis tout ça. Puis à un moment donné, il fait un show, il y a genre 600 000 personnes, le stage est en train de brûler, le monde capote parce qu'ils ont pas de, il y a pas de toilettes, il y a pas d'eau, il y a pas de ressources, puis ça fait que le monde, c'est une émeute. Puis là, lui, il joue super relax. Puis c'est comme, genre, ça devient comme une messe, là, tu sais. Tout le monde est comme, oh, OK, il se passe de quoi de spécial, finalement. Puis il a comme calmé la foule avec juste son swag. Wow. Fait que, allez voir ça. C'est sur Prime.
Tous mes besoins essentiels ne sont pas comblés, mais la musique me transcende. Alors, let's go!
Je vais éteindre ce feu maintenant avec mon chandail et écouter la fin de Alléluia.
Tu fais à Woodstock 99 un peu d'acide pour calmer les émeutes.
Ah, ben oui.
Parce qu'il y a eu des émeutes à 99 à Woodstock.
Oui.
Pas à Woodstock en Beauce, là. J'ai jamais eu d'émeutes.
Mais ouais, j'ai coupé, mais je me rappelle plus de quoi qu'on parlait.
On parle de ton podcast, mais à quel point tu.
Ouais, c'est ça.
Tu veux lire avec.
Ouais, ben c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, justement, je disais Alain Deneau. Tu reçois Alain Deneau, tu peux pas avoir lu ses affaires puis être juste comme, résume-moi dans ça, là.
les ingratis,
c'est quoi? Mettons pour le monde qui nous écoute. Comment tu dirais?
Mettons, j'ai lu derrière, c'est quoi?
Ben, Roson, il a essayé à tout le temps, puis ça a pas marché.
Ouais, moi, non, ça a pas été.
Ça, c'est une belle séquence où Alain Deneau, il remet à sa place Gilbert Roson, là.
Il le remet même pas. Je l'ai réécouté il y a pas si longtemps. Il me le remet met pas de temps à sa place. Il est juste comme, tais-toi. Il est vraiment une attitude. C'est pas important. C'est, moi, je suis intéressant. Toi, t'es pas intéressant.
Il prend fait le document juste... et il dit, tu liras ça.
Il
prend, bon. Puis il prend.
Ah, ah, il le méprise, tu sais, comme avec tout son être, là, tu sais. Mais il dit pas de grand chose. Il est juste comme. Tu sais, genre. Ça, Gilbert Rozon est comme. Ouais, mais quand même, le ruissellement, ça marche quand même. Puis comme. Ah, tant mieux pour toi. OK, fait que. Il sent Christ, il y a pas de considération pour Gilbert, ce qu'on aurait dû tous avoir.
D'accord.
Aucune voilà. considération. Oui. Mais bref, c'est ça, je me prépare parce que c'est, je trouve que c'est souvent des sujets qui sont importants. Puis ça, c'est un réflexe qu'on n'a pas en télé ou en radio, oui. tout ça. Mais certaines émissions de radio quand même, là, tu sais, des fois Radio-Canada, mais de quand il y a un sujet chaud, d'inviter la personne qui y a réfléchi pour vrai.
Mm-hmm. Oui.
Ça se peut, tu sais. Il ouais. y a des gens qui ont passé leur vie à écrire des livres là-dessus. Tu veux parler de racisme systémique, ben invite quelqu'un qui s'y connaît. Ouais. Non, m'a invité un tel, lui a une opinion là-dessus, puis c'est pas, ça va faire une bonne cote. Ouais. Mais c'est ça, on n'a pas... Fait que c'est par respect pour la personne que j'invite, je lis son livre au complet, puis c'est vraiment, ça crée un bond de suite, parce que la personne est comme, mon Dieu, personne qui m'a jamais lu.
Souvent. <Au complet.
rire> Non, mais tu sais, je veux dire,
non,
j'exagère, mais ils sont souvent
comme,
invités.
Les écrivains rentrent pas dans l'acteur. Nous, les humoristes, tout le monde qui nous ont vus,
c'est facile,
les lecteurs, tu vois pas.
Ouais. Ouais, exact. Puis souvent, c'est ça, ils font des émissions, puis la personne n'a pas nécessairement lu, parce que tu peux pas tout lire, là. Des fois, là, quand ouais. tu fais une grosse émission grand public, t'en lirais trop. Fait qu'ils sont habitués à ce que ça n'a pas été nécessairement lu. Fait que là, ça crée un banc de suite. Tu leur envoies comme un truc très spécifique. Ils sont comme, OK, toi, tu... OK, c'est bon, on peut y aller, puis je peux... Tu vas me suivre, tu vas comprendre ce que je veux dire. Fait que je trouve important de le faire, mais pour l'emploi du temps, comme je te disais, c'est assez difficile. Ouais. Tu sais, des fois, là, en ce moment, je lis un essai sur la religion, la laïcité, sur la place de la religion dans l'État, comment distinguer les deux, puis c'est costaud. Oui. Je te dirais, c'est un gros livre costaud, c'est très philosophique, mais c'est super intéressant, puis tu sais, je veux justement être cette personne-là pour qu'ils puissent le vulgariser à des gens qui écoutent des podcasts, qui n'ont pas nécessairement le temps de lire ce style de livre lourd-là. Je disais ce style de livre, c'est un très bon oui, livre, là, mais c'est pour plus des universitaires, je te dirais, mettons. Ouais. Mais je trouve ça le fun de vulgariser des sujets qu'on n'entend pas nécessairement. Puis moi, quand j'ai commencé le podcast, j'étais comment, tu sais, inviter juste des humoristes, des artistes, puis ça, c'est bien le fun, mais c'est déjà fait. Fait que qu'est-ce que je peux amener d'autre? Ça serait ça. C'est ça qui me distingue, je pense, dans mon podcast. Ouais. Mais j'ai bien du fun. Je lis des affaires que j'aurais pas lues normalement. Puis,
ce qui distingue le plus beaucoup. Dans ton podcast, puis je trouve ça génial, t'es le nombre de fois dans un podcast que tu dis à des invités, pourquoi t'as pas de podcast? Puis tu m'expliques pourquoi ils en ont pas, puis un an plus tard, ils en ont un, puis c'est un succès.
J'avoue, j'ai fait ça avec les Denis.
Puis les sexes légales.
Ouais,
les
gars, vous n'avez
pas de podcast. Ah, ça marchera jamais.
Ouais, les sexes légales, eux autres, c'est comme moi, je les connais. Puis c'est comme vous êtes déjà un podcast. Faites ouais, juste des ouvrir les micros, sacrément.
C'est ça.
Non, pas de podcast. C'est de la merde. Ouais, je comprends pas. Là.
Attends, t'es en train de dire que Philippe Sigon et Mathieu Seguin trouvent que quelque chose est de la merde avant de s'y intéresser puis de plonger. Je pense. En tout cas, j'ai l'impression que c'est
ouais,
pas dans le genre.
Ouais, mais écoute, ils l'ont fait puis ça marche au bout. Ouais. Mais je pense que. Quand c'est toi, quand t'es toujours de même, tu vois pas la valeur de ça, tu sais. Mais moi, je suis comme, hey, c'est moi, je vous écouterais là, tout le temps. Là.
Ah non, ils sont hilarants.
Oui, c'est mon podcast, c'est un épisode dont on s'est plus discuté. C'est incroyable.
Vous êtes géré pour ça, là. Ouais. Ça me fait rire parce qu'il y a Yaïs l'humour, tu sais, mais comme c'est les deux gars les plus humoristes que je connais, ils vivent pour le bon gag qui traîne à quelque part, puis qu'on. Mais c'est pas ça qu'ils sont excellents.
Ce que j'adore de ces deux gars-là, quand ils sont dans le même show que moi, c'est que je m'assois avec eux autres puis je parle pas. Puis je les vois déconner entre eux autres. C'est le meilleur bout. Puis des fois, mon livre m'arrange que ce soit les gars. Oh, j'adore. Les moments où j'ai le plus ri dans la vie, c'est.
Ben oui.
Moi, je me suis vraiment. Ils savent pas, là, ils s'en souviennent pas parce qu'on est dans l'état second. Je me suis retrouvé dans plein de parties chez ces deux gars-là qui. Juste, j'y suivais. Puis je regardais.
C'est pas un peu terrifiant.
Ah non, eux autres, ça leur fait plaisir. Un public, let's go.
Moi, j'étais là.
Le mouth breather en arrière.
Vous êtes vraiment drôles, les gars.
Mais je suis pas là.
Mais non, écoute, ils sont parfaits. Moi, j'ai fait du moche avec eux autres. Puis je pense que j'ai pas dit un mot. Là. J'ai ri, là, j'étais couché à terre. Genre, je faisais juste, j'étais comme, faut nous donner un break. Là, je suis capable. sont hilarants.
Mais tu sais, tu dis Yaïs l'humour, mais c'est drôle parce qu'on avait effleuré un peu le sujet avec Colin, puis je me souviens plus si c'est en podcast ou hors podcast, mais bref, je pense que, tu sais, des fois, il y a certains humoristes qu'on n'aime pas l'humour, ou même quand on parle à des gens à l'extérieur du milieu de l'humour qui sont comme « Ah, j'aime pas l'humour », mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a encore dans la tête de certaines personnes que quand on dit « l'humour », c'est l'humour des années 90?
Ah, t'sais? Ouais, il y a un peu de ça, mais tu sais, comme je dis ça, je pense que la position des gars est plus nuancée que ça quand ouais, même, ouais. Tu sais, ils aiment des affaires en humour, puis c'est juste... C'est spécial au Québec quand même, l'humour, parce que c'est comme vraiment beaucoup mis de l'avant. Puis la manière qu'on regarde ça, la manière qu'on aborde ça, je trouve que c'est très... On est très consommateur. On est très... C'est très capitaliste, l'humour. C'est comme ça sert à quelque chose. C'est genre, je paye, tu me fais rire, puis c'est tout. Puis that's it. Puis c'est comme, hey man, ça, c'est pas genre de l'art, là. C'est comme du service à clientèle. Puis il y a beaucoup cet aspect-là. Puis c'est les plus grosses vedettes, les humoristes aussi. Fait que je comprends là, qu'il y a une haine qui va venir avec ça, qui... Puis qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir du pouvoir qu'on ne devrait pas nécessairement leur en donner parce qu'ils n'ont pas tant d'affaires à dire non plus. Fait que je comprends cette opposition-là, mais oui, tu sais, l'humour a changé, puis il y a plein de gens qui sont excellents, puis qui essaient de pousser cette art-là le plus possible, puis qui a une vraie philosophie, puis qui a une vraie démarche artistique, là, tu sais. Mais ouais, c'est facile de mettre tout ça dans le même panier parce que c'est ça, là. Tu sais, ceux qu'on voit le plus, en tout cas, c'est pas nécessairement ceux qui poussent le plus cet art-là tout le temps. Il y en a évidemment là, qui réussissent à se faufiler. Mais ça, je comprends cette position-là. Moi, j'aime l'humour. Là, moi, j'aime beaucoup ça. Puis même quand c'est mauvais, ça m'intéresse. Là, ça change un peu que les années. Là, j'ai comme moins de temps maintenant. J'ai un enfant. Là, fait que ça se peut que si c'est mauvais, je l'écoute pas. Là, mais j'ai plus ce temps-là. Mais moi, quand je suis plus jeune, là, quand j'ai commencé, j'écoutais tout. Les affaires mauvaises, je les écoutais aussi. J'étais comme, je veux savoir pourquoi c'est mauvais. C'est que j'essayais de m'améliorer moi-même en voyant ce que je trouvais pas nécessairement bon. En fait, me découvrir moi-même à travers ce que j'ai eu. Ouais, ce qui est ça, la vingtaine.
Mais Ricky Gervais et Stephen Merchant qui ont pitché The Office à la BBC. Ils n'ont pas pitché ce qu'ils voulaient faire, ils ont pitché ce qu'ils voulaient vraiment pas faire.
Ah,
c'était
ouais,
ça, The Office, ça a été construit à l'envers. Voici tout ce qu'on veut pas. Mm. Puis ça a créé The Office, qui est encore en ce jour la série préférée.
Maintenant, je ne suis pas sûr de saisir comme ils ont pitché quelque chose qui n'était pas The Office, ils ont pitché The Office.
Ils ont pitché The Office, puis on dit voici ce qu'on fera pas.
OK.
Le personnage principal ne sera pas amical.
OK, OK,
comment ça? Un truc comme ça, voici ce qu'on veut pas dans tout.
OK, ah, ouais. Fait que, ouais, c'est la BBC a fait
d'accord, mais il faut que ça coûte 11$. Puis
en fait, on va s'arranger.
Ah oui, j'en doute pas, mais il faut que ça va coûter 11$, puis ça va être tourné dans nos bureaux vides. OK.
Ouais. On a une salle de conférence en haut, vous pouvez aménager.
Faites votre niaisage. Ouais.
Mais il y a souvent ça dans les pitchs de séries ou de séries ou d'émissions qui sont des classiques, c'est genre la personne a pitché quelque chose d'autre. Puis là, un coup qu'il y a un oui, tranquillement, on amène ça ailleurs.
Ah,
ouais, il y a quand même plusieurs exemples de ça. S'il n'y en a pas qui me viennent en ce moment, mais
wow.
mettons Breaking Bad, je pense pas qu'ils ont pitché carrément l'inverse, mais ça s'est beaucoup modifié au travers de la... T'sais, ils ont modifié des affaires après.
Oui. Mais il faut mentionner le duo, là. Le duo de Jesse et du professeur. Au début, Jesse, à la fin de la première saison, était censé mourir.
Ouais, c'est ça.
Mais il y a tellement la combinaison entre les deux qu'ils ont fait « Ah, tu vas survivre. » Puis s'ils voulaient pas tourner au Nouveau-Mexique, le Nouveau-Mexique, c'est une manière de « Ah, mais vu que ton show, c'est sur Crystal Meth, fait qu'on n'a pas dans l'argent que ça, parce que qui va regarder ça?
Ouais. »
Fait qu'on peut pas tourner en Californie comme tu voulais, on va tourner au Nouveau-Mexique. Puis là, mais déjà, on fait « la lumière au Nouveau-Mexique », puis ça a fait le look. Ça, toutes les erreurs du... Ouais. Ça a créé la série.
Mais moi, j'adore ces histoires-là, parce que toutes les affaires qui sont des cultes, là, qui sont classiques, ça tous les réseaux genre ont chié là-dessus. Ouais. Ils sont tous fait dire « Est-ce que c'est mauvais? Je peux pas croire. Tu nous présentes ça? »
Fox a produit le pilote des Sopranos.
Ouais. Ils l'ont écouté, le premier épisode. Là, ils l'ont écouté, ils ont fait comme... Tu es malade, toi. Pas cette affaire-là. Ouais. Ça a été la meilleure série de tous les temps là, pour plusieurs personnes. Ouais, HBO, on l'a acheté finalement, mais eux autres, comme ils ont mis de l'argent, là, leur propre argent, ils ont écouté, on fait comme... Non, mais ne reste pas.
C'est incroyable.
OK.
Puis, on peut le faire à HBO, fait qu'on peut sacrer, on peut...
Ouais, c'est ça, ouais. On n'est pas...
Mais il y en a plein, là. Il y a peut-être... Toutes les bonnes séries se sont fait dire « c'est épouvantable, cette affaire-là ».
Les Simpsons, qui est un succès dès le départ, au début, ça appartenait à une émission, je pense, le Liv Ullmann Show. La fille, elle haïssait. Parce que c'est un segment.
C'est un segment,
oui. Elle haïssait ça.
Puis quand c'est un succès, elle a toujours dit j'adorerais ça, puis c'est les auteurs qui ont fait non, on s'en souvient, t'as le collé ça dans la gorge, ce show-là. Puis tu voulais pas le mettre maintenant que ça fait des millions. Ben.
Wow.
Ah, c'est bien une anecdote. J'ai écouté un podcast récemment sur la fille qui a créé Friends, Martha Kaufman, je pense que c'est ça son nom, à co-créer, là, il était deux. Puis il tourne le pilote, puis le boss de, je sais pas où ça passait, par exemple.
NBC.
Il tourne un pilote, puis là, je pense, le premier épisode, je me rappelle pas, là, mais je pense que Monica elle couche avec un gars le premier soir, puis elle rappelle pas. Quelque chose du genre, là, je me rappelle plus exactement. Puis là, le boss d'NBC vient la voir après, fait comme, ouais, mais là, ça, cette affaire-là de Monica, là, tu sais, je veux dire, elle couche avec le premier soir. C'est une slot, là, c'est normal qu'elle soit pas rappelée, tu sais. Là, t'es comme, pardon, mais là, ça finit pas là. Fait comme, je pense tu l'as mal compris, tu sais, je veux dire, c'est son boss, fait qu'elle essaie de... Il est miso, mais en même temps, OK.
C'est un échec.
Ouais, on va prendre ça en note, c'est cool. Puis là, il présente le pilote à un public cible, tu sais, ils font souvent ça.
Ouais.
Puis il y a un questionnaire après, qui après, dans le questionnaire, il y avait, est-ce que Monica, en ayant couché avec le gars le premier soir, est A, une slot, B, une, je sais pas quoi, là, genre une salope.
Toutes les choses, c'est la même affaire.
Toutes la même
une
affaire.
Guidoune, une slot, une
ou D, aucune de ces réponses. C'est ça, comme plein de suggestions, une salope, une niaiseuse, une folle, une épaisse, ou aucune de ces réponses.
Wow.
Puis là, la majorité, c'était comme aucune de ces réponses. Là. C'était juste lui,
parce
là,
qu'on a tous déjà avec quelqu'un, puis on l'a pas parlé. Là. Ça s'appelle
c'est
exister.
Ça, c'est une autre mentalité, puis tu vois que c'est ça. Des fois, ils n'ont pas de jugement, là, ce monde, ils n'ont pas rapport. Là, puis ils sont pleins de préjugés, puis ça se transmet des fois là, dans ce que tu vois dans la culture populaire.
J'ai un exemple pour toi de séries qui ont pitché, puis c'était pas ça. Seinfeld. L'idée de Seinfeld, c'était comment un humoriste bâtit son matériel. De pourquoi, c'est pour ça qu'il est sur scène. L'idée de Seinfeld, lui,
c'est un peu ça, mais pas de temps, finalement.
Mais c'est pas... quand tu connais la série, tu fais ouais, mais c'est pas ça pendant tout. C'est pas comme, tu vois pas, au début, c'était vraiment Jerry Seinfeld qui fait, hein, les tasses, hein. C'est un peu weird, c'est un peu weird. 15 minutes plus tard, il est sur scène, hein, les tasses, hein.
Ouais,
ça a été moins bon un peu. Ils ont réalisé que ce qui était payant, c'était tous les moments où finalement Larry David puis Jerry Seinfeld se jasent dans la vraie vie, là.
Puis il a gardé, Jerry Seinfeld, la lettre qui était écrite, à quel point il disait, une des lettres qu'il a laminées, c'était, mettons, c'est une série qui s'adresse aux jeunes adultes éduqués qui sont urbains branchés.
Okay.
Et c'est une raison pourquoi c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Il dit, c'est trop génial. Il disait, c'est la raison pourquoi moi, je voulais faire le show. Puis eux, ils disent que c'est pour ça qu'ils veulent pas. Ils trouvent ça génial.
Wow.
Tous les documentaires sur la série Seinfeld qui sont tous disponibles sur YouTube.
Ah ouais, j'en ai pas vu aucun.
Surtout, il y a une série, je pense, Seinfeld, comment ça a été fait. Ça dure genre une heure et demie ou une heure. Fascinant. Ça commence de la rencontre entre Larry David puis Jerry Seinfeld à des affaires géniales du genre Jerry Seinfeld quand il s'est assis avec NBC, ils ont dit qu'est-ce que tu veux faire? Puis il a dit ben moi mon rêve c'était juste d'avoir une réunion comme ça. Fait que je sais pas.
C'est fait.
Je suis rendu.
Et le nombre de la relation Jerry Seinfeld qui est super relax, qui est curieux parce que c'est la vedette du show, c'est le créateur, et Larry David qui est tout le temps névrosé.
Mm-hmm.
Mais à la première réunion quand ils ont commencé à écrire, ils ont dit, bon, mais ça, c'est un three-camera show. Puis Larry David, il y a un no-name, Larry David. Il y avait zéro nom, là. Il s'est mis à crier, puis à dire, c'est une caméra! Une! Non! Puis il est parti. Puis,
avec ses cheveux,
à l'époque. Il a crié après tout le monde. Puis Jerry Seinfeld, j'ai dit, on n'a jamais discuté de ça. Puis finalement, c'était trois caméras, puis c'était bien correct. Puis. juste Larry David, un truc. Dans la série, ceux qui trippent sur Seinfeld, m'a amené George, qui est Larry David. Crie après son boss, l'envoie chier, quitte. Et son voisin, il dit, il réalise, hostie, j'ai plus de job. Puis son voisin, il dit, reviens lundi comme si rien n'était. Il a vraiment
fait ça pour vrai.
Saturday Night Live.
Ah ouais, c'était à Saturday Night Live.
Saturday Night Live. Puis il est revenu.
Ça a marché?
Ouais.
Il y avait assez de talent pour ça, j'imagine.
Il ouais. y a eu un sketch en SNL. Un seul sketch.
Pardon?
Ouais.
Probablement le meilleur writer humoristique de tous les. Mais en même temps.
Mais c'était à l'époque où c'était Eddie Murphy, c'était à l'époque où c'était
Ouais, c'est ça. Il est bon pour écrire des affaires par rapport à lui. Je pense à Larry David. Je sais pas s'il est bon pour écrire n'importe quoi. Là. Mais Curb, c'est fou. Là.
Ouais.
C'est que des classiques.
Là. Mais il racontait, c'est une des réalités. C'est là qu'il a rencontré aussi la Elaine. Là, c'était des amis. Il disait en réunion d'auteur, il pliait la salle en deux. Sauf que dès qu'on le faisait devant le monde, on ne comprenait rien. Puis il sait ça. Fait que c'était coupé. Je pense qu'il y a un sketch en une saison.
Wow! Eh bien.
Puis il m'a dit si je suis connecté avec le gars, parce que normalement, comment ça fonctionnait à SNL, c'est que je pense que c'est le mercredi, puis c'est encore le cas, tu dois faire une nuit blanche. Parce qu'il faut le mentionner, à l'époque, SNL, c'était beaucoup, beaucoup sur le speed, puis ça coke. Fait que ça marchait.
tu pouvais juste parce que tu fais écrire, pendant la nuit t'écrivais des jokes d'actualité, t'écrivais des sketchs, ça marchait de même. Puis Larry David disait, moi j'ai écrit mes jokes, il est 9h le soir, je passerai pas une nuit au complet. Mm-hmm. Puis il a crié après le boss, il avait dit non.
Je resterai pas toute la nuit ici.
Non! Puis le boss a essayé ça.
Ah, et parlant de SNL, un autre bon documentaire, c'est sur John Belushi.
Ouais.
Moi, je veux dire, c'est pas mon époque, fait que j'ai pas connu cette époque-là, puis je veux dire, moi, j'ai plus connu Jim Belushi. Suzy Frisette. ce genre de truc-là. Mais quel talent, quand même, tu sais, comme quelqu'un qui a trop de talent, en fait, puis qui est comme complètement...
Sauté.
Ouais, qui est complètement défoncé à la fin. Mais c'est fascinant, ça, quand même, que tu découvres qu'à chaque héroïnomane, ça part souvent d'une blessure physique. Là, genre, je pense qu'il est mal... Il y a une blessure, là, à un moment donné, je sais pas trop. Là, il a fallu qu'il soit médicamenté. Puis là, comme mm-hmm. il est devenu accro à ça, puis il a migré vers l'héroïne, mais c'est souvent ça.
Charlie mm-hmm. Parker aussi, c'est ça? Charlie Parker qui avait des maux d'estomac.
Ouais, mm-hmm. Kurt Cobain.
Kurt Cobain, selon un de ses amis, je pense que c'est le gars qui... un des membres de Melvins, il disait ça, c'est une invention.
OK.
Pis,
ah ouais.
Et que ses maux d'estomac, il disait, oui, mais ses maux d'estomac, c'est l'héroïne qui créait ça. Au début, il n'y avait rien, mais c'était son accoutumance à l'héroïne qui a fait qu'il y avait des maux. Puis c'est ça qu'il disait au monde. C'était plus une. Lui, il dit, c'est plus un junkie qui explique à son entourage qu'il n'y a pas le choix.
Ouais.
Ouais, il y a des grosses chances que tu as mal au ventre si tu fais de l'héroïne. Tout le temps.
Il semblerait.
On mange du fromage, puis on a mal au ventre. Tu sais, je veux dire, maintenant, là.
Ah oh, mon Dieu!
C'est ça pareil!
Ouais.
Oh. Puis une autre chose que je voulais parler avec toi, Guillaume, vraiment, que je trouve extraordinaire, c'est le Mobilo, qui est une coop humoristique. Je veux dire ça comme ça?
Ouais, c'est ouais. Puis, c'est probablement la seule.
Qui est juste un, pour moi, un contre-modèle actuel.
Ouais.
Dans
ouais.
le milieu de la production en humour. Peux-tu nous parler de ça?
Écoute, je te dirais que je sais pas si c'est un modèle parce que c'est pas comme si ça roulait full pin non plus. C'est pas comme si le cash rentrait par container. Là, tu sais
plus quoi faire avec l'argent.
C'est un modèle où il faut que tout le temps ça arrive even. Tu comprends? Là? Oui. Puis, mais c'est voulu comme ça parce qu'on voulait donner le plus d'argent possible aux artistes.
Ouais.
Mais puis ouais, on l'a fait sous forme de coopérative parce qu'on trouvait ce qui fitait le plus. Mais je sais pas à quel point on aurait dû faire ça parce que rien... dans la société, dans la bureaucratie est faite pour les coopératives, surtout pas dans l'art, en tout cas.
Au niveau des subventions, puis
ouais.
tout ça.
Puis une coopérative de producteurs.
C'est quoi, une coopérative?
C'est une coopérative de producteurs. Une coopérative, dans le fond, c'est que... Mais il faut toujours que ça soit 5 membres, au minimum. Wow. Qui gère tout ça. Là. Fait que t'as comme t'as un président, t'as un vice-président, t'as secrétaire, puis t'as administrateur, t'as trésorier. Ça, j'aime beaucoup ce terme. Adib et trésorier.
Il s'occupe du trésor.
Exact. Fait que c'est ça le modèle. Puis tu peux avoir plusieurs... Ça, c'est les membres... c'est le conseil, finalement. Puis après ça, tu peux avoir des membres à l'infini qui peuvent avoir... Mais tu sais, c'est comme si vous êtes à la Caisse des Jardins,
ouais.
c'est ça.
Ouais.
On dit pas que ça peut mal virer, ça peut pas mal virer une coopérative avec Desjardins, on le voit quand même. Mais
avez-vous
c'est ça, fait que c'est un modèle.
Les données personnelles de tout. Adib, il a pris les données de tout le monde.
Pour genre 3
trésors. C'était ça le trésor.
C'était nos données, je sais pas ce que ça vaut, là, honnêtement. Là.
Données de. Ah, des gens qui aiment le weed.
Ouais.
J'ai cru que les gens qui aiment le Mobilo, ils apprécient aller à la SQDC.
Mais ouais, fait que c'est ça, nous autres, c'est juste qu'on fait les gars, là. On fait toutes les affaires qu'il y a en humour, mais qu'à un moment donné, on réalisait que je fais une version de moi-même à chaque fois, je fais jamais moi à 100%, tu sais. Je suis comme, OK, qu'est-ce qui fitterait là-dedans que je peux faire dans ce cadre-là? Puis à chaque fois, on se pose cette question-là, puis t'es comme, crime, ça serait le fun d'avoir un espace où tu te poses jamais la question, puis tu fais ce que ça tente, mais en même temps, on savait pas s'il y a un public pour ça. Puis on l'a fait, puis on a réalisé que oui, là, tu sais, puis le public était comme... Tu sais, il y a beaucoup de geeks d'humour, là, en général, puis il y a beaucoup de gens qui se retrouvent pas nécessairement dans ce qu'il y a dans l'offre humoristique. En général, fait que...
J'aime ça vous appeler si vous êtes le mot anti-tricheur. Vous êtes tous ceux qui marchent pas au tricheur, ça marche très bien au Mobilo.
Genre, ouais, probablement. J'étais allé au tricheur une fois, je comprenais même pas le jeu. Je l'avais jamais écouté. Je sais même pas ce qui se passe. Puis là, je réalise que je fais pas la bonne affaire. Tu sais, comme, j'essaie. À un moment donné, je suis le tricheur. Fait que là, il te donne les réponses.
Oui.
Mais moi, je suis juste comme, ben, il me donne réponse. Je vais dire la réponse à chaque fois. Il me la donne. C'est smart, merci. Dans le fond, quand t'es le tricheur, t'es chanceux. Fait que là, moi, je réponds, puis là, tout le monde est comme, c'est lui le tricheur. Il a eu cette réponse-là, c'est super difficile. Comme, pourquoi c'est grave?
Comprends la réponse tout le temps, toi, au tricheur. L'écouterais, man.
Ça a été une fois, moi, le tricheur, puis je comprenais pas.
Oh, c'est génial.
Je comprenais pas le but.
C'est pas la réponse qu'on me donne. C'est ça, la bonne réponse.
C'est là. Oui, c'est dur, mais crime, j'ai l'air super intelligent. Si je le dis.
Oh, wow.
Génial. Oh.
Puis, fait que j'ai perdu. J'ai pas gagné au tricheur.
Ta fondation, pas d'argent.
Non, mais c'est parce que c'est ça. À un moment donné, il y a une question, genre, hey, si tu réponds bien à cette question-là, il y a comme 2000$ à ta fondation. Puis je suis comme, ben là, je vais répondre. le tricheur ou pas, là. Les autres, ils l'ont su tout de suite. Puis là, tu sais, puis là, la prod avait l'air d'être comme moi, lui, il est pas.
Oh, c'est incroyable.
Catch pas trop. Hey, moi, j'haïs les jeux en général, là, toutes ces affaires-là. Là. Aïe, aïe. Moi,
il faut que tu sois content d'être là.
Ouais.
Puis la caméra, t'es comme, oh, c'est Guillaume.
Est-ce qu'il faut que tu interagisses avec le petit diable?
Oh!
Tu sais, il a un
nom. Ah, ouais.
C'est un diable qui est très mal vieilli. Hein. C'est pas.
Mais moi, je suis tellement pas bon dans cette affaire-là. Si j'ai pas ça. Être volontaire, puis être. Ou faker d'être là, ou comme le trouver en soi. Tu sais, tu peux trouver en toi que tu peux être content
mettons,
d'être là.
Guillaume, mais pas... que j'organise une soirée de jeux de société, je pense pas que je vais
t'inviter. Non, invite-moi pas.
Ah, oh, moi, oui!
Mais je suis pas compétitif. Ça, c'est un des plus grands problèmes que j'ai réalisé en société. Ne pas être compétitif dans une société capitaliste, c'est la pire affaire parce que je suis comme, ah, ben moi, je m'en fous, là, m'a donné tricheur. Ah, j'ai perdu, ben, whatever, tu sais. Puis pendant qu'il y a du monde qui me, OK, là, moi, je vais bluffer, j'ai pratiqué dans le miroir.
Ils ont la veine dans le front.
C'est comme qu'il y a un show de vedettes qui mentent. Ouais. Tu vois à quel point ils savent mentir.
Ils sont super bons. Mm-hmm. Super bons.
Ouais, je suis une bonne personne. Allô? J'adore les femmes. J'adore les femmes.
J'ai des connaissances, mais il faut pas vraiment que je les montre. Ça pourrait intimider les autres.
Ouais, c'est vraiment bizarre comme jeu, t'as raison. Puis c'est parfait pour les vedettes.
Puis ça
c'est
marche.
Parfait pour le showbiz. Mais ouais, non, moi, je suis pas bon dans ces affaires-là. J'avais fait l'émission, je me rappelle pas comment. C'était comme le Hollywood Square, là, il avait fait ça avec Jean-François Mercier, il animait ça. J'étais allé une fois, puis tout le long, quand je répondais, je faisais juste écœuré Jean-François qui animait ça. Genre, je peux pas croire, t'animes ça. T'sais, puis ça a pas passé. J'étais comme, on se connaît, pas grave. Puis là, tout le monde est comme, non. Tu peux pas briser le cadre de ce jeu-là. Là. On essaie de faire à croire que c'est le fun à écouter. Là,
ouais, puis Jeff, il a le sens de l'humour.
Ouais, lui, il était pas fâché. Ouais, oui. Lui, il était juste comme...
Ah, c'est l'équipe, oui.
C'est pas ça la vibe, Guillaume. C'était juste...
T'es entre Mélanie Ménard puis Alex Perron. C'est pas ça qu'on te demandait.
Exactement entre Mélanie Ménard puis Alex Perron, en plus, je pense. Puis Mélanie Ménard, avant, me demandait « Hey, t'aurais-tu des jokes pour moi? » Tu sais, parce qu'il faut avoir des jokes. Comme,
t'as-tu vu ton
premièrement, j'en ai pas écrit pour moi. Fait que, bonne chance. Chacun pour soi.
Faites mon bit, c'est douchebag.
Mais pour moi, à chaque fois que je vois ces affaires-là, c'est de la survie. Tu sais, je suis comme en mode survivre à la journée.
Mais... C'est drôle parce que moi, ce que je fais, c'est que je texte tout le temps Steph, puis JF, puis Christine de... Moi, c'est mon rêve, faire ces shows-là.
Ah ouais.
Mais tout ce, maman, tu sais, ce qui est ma joke, c'est que je fais « Hey, bouquez-moi génial! » Puis là, c'était fait « Non! »
Mais bien sûr que génial. Non, les pauvres enfants, ils essayent d'apprendre les sciences physiques.
Il y a un point qui dit « Yo, ce qui est important, c'est se masturber, tu vas mieux étudier. » Ça marche pas, là.
Coupez les ponts avec votre père, les jeunes!
Ouais, scientifiquement, c'est valable, ce conseil-là. Dans les probabilités, là. C'est quand même une bonne idée. Écoute, je ne connais pas ton père, mais coupe les ponts. Si ça va mieux,
ouais.
Laisse ça de même.
Oh, viens, sinon, ton père, il va jamais t'abandonner pour vrai. Ouais. Il va toujours une porte ouverte. Ah! Puis c'est ma grosse joke, c'est voir Jeff. Pis, parce que Jeff, il sait jamais si je niaise ou pas. Ça fait assez que je suis un imbécile. Jeff, il Tom, on peut pas t'envoyer à Salut Bonjour. On peut pas. Tu vas tout. Tu vas te barrer à vie, là. Toi pis Gino Chouinard, ça marche pas, là. Toi qui demande à Gino Chouinard, pourquoi tu te boutes? Bref.
Ouais. Mais je me sens toujours mal à ces affaires-là parce que, tu sais, c'est comme. Tu peux en rire autant que tu veux. Tu peux trouver ça nul autant que tu veux. Quand t'es là, c'est des êtres humains. Si c'est des êtres humains, des techniciens sont fins, personne, tout le monde est comme de bonne foi puis ils veulent faire le meilleur show possible dans le cadre de cette affaire-là. Mm-hmm. Puis tout est comme, moi j'haïs ça, ici, je trouve ça fucking tweet. Puis là, on m'a comme obligé. Puis là, mais je veux pas vous faire sentir mal là, de trouver ça tweet. Fait que je vais essayer de jouer le jeu, mais je suis pourri pour jouer le jeu. Mm-hmm. J'ai pas ça en moi. Fait que c'est quand même, c'est weird. Le showbiz québécois, il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut que tu fasses qui sont pas tant le rêve de petit cul que t'avais, là, tu sais.
Ouais.
Ou il y en a que c'est ça leur rêve. Même leur rêve,
ben oui,
c'était
ça, c'est sûr.
Je veux être à Salut Bonjour. Ah, OK, il m'a écrit une toune. Ah, OK, il m'a être drôle.
Ouais,
mais
ouais.
Le but ultime, c'est être à Salut Bonjour.
Ah, il y en a qui sont, ont l'air, sont nés pour ça, là. Mm-hmm. Comme, vas-y, puis prends toute la place, mais.
Tout.
Ouais, ouais. Tu sais, je veux dire, Matt Duff, tu peux prendre toutes mes places, mon
bien
gars. Tu sais, comme, vas-y, il n'y a pas de problème avec ça. T'es bon là-dedans, puis les gens sont contents. Mm-hmm. Je suis malheureux là-dedans. Mais à un moment donné, par exemple, je me demande, tu sais, c'est quoi le canal pour se rendre? C'est sûr qu'il y a, bon, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a, c'est des podcasts maintenant, puis tout ça. Fait qu'on est en train de se créer comme une alternative, mais crime, sinon, c'est quand même difficile de se rendre au grand public, là, tu sais.
Mm-hmm.
Je trouve ça... Il n'y a pas beaucoup d'endroits. Tu sais, moi, ma blonde, mettons, elle fait de la musique. C'est fini, là. Tu sais, comme des endroits où... Bon, il y a Star Academy en ce moment. Ça peut être un spot où tu vas jouer de la musique.
Toutes
personne
productions...
respecte la musique.
Ah, ben, Jean-Philippe Dion, toutes ses productions, il respecte les artistes. Jean-Philippe Dion, quand il fait quelque chose, il... c'est une raison, à mon avis, pourquoi Star Academy, c'est pas aussi hot, qu'il respecte les artisans. Puis là, le but d'une télé-réalité, c'est d'abuser du monde.
Mm.
Je pense que c'est une... ça explique pourquoi Star Academy, c'est bien sans être exceptionnel.
Ouais, ouais.
Tu sais que la voix, c'est extraordinaire. C'est qu'il abuse du pauvre monde. Hey! 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 Parle-moi de ton cancer à l'utérus. Cool, chante ta toune. Ah! Ça, c'est terrible, faire vivre ça à quelqu'un. Mm. Mais ça fait un bon show.
Ouais, c'est assez fascinant, ces shows-là, quand même, parce que souvent, ces affaires-là, ça parle plus de nous que ça. Tu sais, on utilise des gens, là, on en a rien à chier d'eux autres. C'est comme, ah, moi, tu sais, je vois ma petite cousine en toi, je vais voter pour toi, puis aussitôt que c'est fini, c'est comme, au vidange, là.
Mm-hmm.
J'en ai rien à chier, finalement, de. Tu sais, puis c'est weird aussi d'avoir des shows de voix quand il n'y a plus personne qui fait ça, là, au Québec. Il n'y a plus de Lara Fabian, il n'y a plus de.
Ta chanson à voix, là.
Ouais.
Puis aussi, la joke qui me fait beaucoup rire, c'est que ça s'appelle La Voix. Puis à la fin, je suis quelqu'un de super beau qui gagne.
Ouais, c'était supposé être ça. Hein,
ouais.
Ouais. C'est la partie de Susan Boyle, cette affaire-là. Ouais. Là, c'était vraiment pour ça qu'ils ont fait ça. Puis au final, finalement. Hein.
Mais tu voulais dire, donc, ta blonde, c'est ça, elle est musicienne, mais tu veux dire des plateformes où diffuser l'art de la musique à la télé.
Il n'y en a plus, tu sais.
C'est
ça.
Il y a un truc de l'univers.
Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, à chaque fois, c'est genre, hey, Marine Orsini t'adore, elle aimerait ça que tu chantes à Gabi.
Mambo Number 5.
C'est ça, genre de truc.
Take Steph Mambo Number 5!
C'est pas ça, là, tu sais. C'est pas ce que ces artistes-là font. Ils font pareil, puis je dis pas que c'est pas bon, cette émission-là. Là, ça donne souvent des beaux moments, puis tout ça, mais c'est pour l'artiste qui font ça, ils font ça pour le public.
Mm-hmm. Ouais.
Mais showcaser le. Tu sais, on a tellement
de talent
de musique au Québec, c'est fou.
Mm-hmm.
Mais il y a pas ça, on n'est pas capable de mettre ça en valeur. Je sais pas à quel point ça intéresse les gens.
Mm-hmm.
Mais.
Crois-tu que ça intéresse pas les gens ou. Moi, je suis d'avis que la télé-réalité. La télé-réalité, c'est comme un gros gâteau. C'est vraiment, vraiment, c'est vraiment goûteux. Puis si tu fais juste offrir ça, tu veux juste manger ça.
Ouais.
À mon avis, c'est pas qu'ils en veulent pas. C'est que... Tu sais, j'en parlais avec Steph. Si Big Brother est à nouveau, c'est sûr que ta comédie, il n'y aura pas de code d'écoute parce que tu seras jamais aussi drôle que François Lambert en bedaine qui donne son opinion. Je veux dire, François Letourneau, son rêve, c'est écrire de quoi d'aussi bon que François Lambert en bedaine qui donne son opinion.
Ouais, ouais, puis bonne chance.
Tu sais, c'est si tough.
C'est parce que c'est drôle de plein de différentes façons.
Voilà, fait que c'est une des raisons pour laquelle la télé-réalité, je pense, ça fait mal à la culture. C'est que ça prend. Si ça existe, pourquoi écouter autre chose?
Ouais, mais ça, en même temps, la télé-réalité, c'est quoi ce comeback-là? C'était fini,
est-ce-tu? Je suis d'accord.
C'était fini, on avait oublié ça, puis on s'en rappelait comme d'un mauvais rêve. Là. T'es comme, hey, te rappelles-tu dans le temps, on invitait des inconnus, on riait d'eux autres. C'était le fun, mais en même temps, ça a fait son temps.
Ah oh, oui, puis après, ils ont dit qu'ils étaient traumatisés de ça.
Ouais, puis ça a mal viré, là. C'était une expérimentation, c'était wrong un peu, en tout cas. On peut y réécouter des extraits sur YouTube de temps en temps, on trouve ça drôle, je peux pas croire, j'écoutais ça. Puis là, on ramène ça. On déguise ça un petit peu plus actuel, puis on aime ça à nouveau.
Moi, ça m'a fait rire, beaucoup de gens sur Internet, des gens que je connais juste sur Internet, qui disent « Yo, free Britney, la maladie mentale, la santé mentale, let's go. » 3 mois plus tard, hey, « OD, une telle, c'est une conne en estie. » Pardon?
On l'a mis dans un contexte, on l'a humilié, puis elle a comme sauté une coche, elle est vache.
Par contre, l'autre, elle a pris un iPad pour voir comment les gens, comment la production l'a vendu au public québécois. Quelle idiote!
J'aime aussi que des fois, on se
dit... Les règles de ce jeu!
Oui, hey, les gens... Elle veut savoir qu'est-ce que les gens disent sur elle, sur Internet. Qui veut ça?
On dirait qu'il est du monde narcissique. Ah, OK. Ça se peut, hein?
Mais qui aurait cru?
Puis j'aime aussi la raison qu'on se donne de « Hey, c'est la pandémie, je n'avais pas le choix. »
Pas le choix.
Occupation double.
Pas le choix. Qu'est-ce que je fasse?
Non.
Lire?
Ben, je me suis mis à faire du pain, puis je me suis tanné. Écoutez, ouais. OD. Ouais.
Je te laisse sur Twitter. Cet homme est pervers narcissique. Ender. Je le sais. Dans les, je l'ai vu écrit.
Ouais.
Je connais ce gars-là, mais je l'ai vu trois émissions. Trois émissions, puis moi, ben, je suis allé vétérinaire, fait que je sais comment diagnostiquer les maladies mentales. Mm-hmm.
Mais ceci dit, je l'ai écouté, tu sais. Mais alors, c'est fascinant, cette affaire-là. C'est comme, c'est vraiment une expérimentation, là, que on met du monde dans un contexte épouvantable, puis qu'est-ce qu'il va. T'sais, c'est sûr, ça va être divertissant. Ça peut pas être divertissant. Quoique Big Brother, j'ai pas écouté ça. Ça me déçoit un peu. Je suis un peu. C'est pas assez drôle.
Ça fait mal ici.
C'est parce que c'est des gens qui maîtrisent déjà ça. Ouais. Ils sont déjà, l'image, puis tout ça, jusqu'à un certain point. Il y en a qui sont plus habiles que d'autres, là, mais ils sont déjà là-dedans. Ce qui est intéressant de la télé-réalité, c'est de mettre des gens qui pensent qu'ils veulent ça, puis au final, c'est beaucoup de pression.
Mais à mon avis, la télé-réalité, c'est le numéro de Simon Gauche où il dit les Olympiques, ça serait tellement plus le fun. C'est du monde qui voulait pas participer.
Ben, mais hein.
Mm-hmm. Il disait, moi, le lancer du javelot, si moi je le faisais, ce serait fascinant. Mm-hmm. C'est la même chose de la télé-réalité. C'est du monde qui ne comprenne pas les règles du jeu médiatique. On fait bonne chance avec ça. Mm-hmm, mm-hmm. Je trouve que c'est horrible, à mon humble avis. Là. Puis dans le studio, il y a des gens qui ont participé. Mm-hmm. Le studio appartient à un gars qui a participé à ce show-là. C'est pas cool, la santé mentale!
Mm-hmm. Non, puis tu sais, moi, je peux comprendre. Là. Mettons, je suis dans la vingtaine, début vingtaine. C'est ça le show le plus hot. Je sais pas trop payant, ce que je fais dans la vie. Je sais pas. Ah ouais, ça a l'air... Ouais, c'est ça, ça peut être payant. Il y a comme débouché après. Why not? Je l'aurais pas faite, c'est pas dans ma personnalité, là, j'aurais haï ça, mais je peux comprendre quelqu'un qui s'inscrit là-dedans et qui fasse comme « Oups, c'est pas ce que je pensais exactement. » Ouais.
Mon argument le plus fallacieux, c'est quand des gens défendent l'émission en disant « Ils savent dans quoi ils embarquent. » Un truc que tu parles n'importe quel artiste qui rentre dans le show business, on sait pas dans quoi on
s'embarque. Mais non, zéro. Là. On pense, mais on a aucune idée. Là. Mm-hmm.
T'as un gars qui travaillait chez un concessionnaire automobile. Puis là, soudainement, il y a 126 000 personnes qui le suivent sur Instagram. Puis dans un club, le monde, il crie après lui, puis il arrache son linge.
Ouais.
Je sais pas.
C'est tellement pas comme une bonne excuse non plus. Là, je veux dire, tu prends le showbiz comme exemple. Là, oh, ben là, il me suis fait agresser. Tu savais dans quoi tu t'embarquais, c'est le showbiz. Plein d'agresseurs. C'est su, ça. Tu le savais. Tu le savais avant, en d'ailleurs.
C'est même documenté. Maintenant.
C'est documenté au bout.
Je fais là.
Il y a des listes puis tout.
Ça vient avec. Ben oui. Oh. C'est quand même fou qu'un des risques du show business, c'est peut-être qu'on va mettre. Bref, tu vas faire agresser. C'est. Waouh! Waouh!
Ouais, non, c'est
intense.
C'est un drôle de milieu, mais je pense, je sais pas, il y a une purge, là. Je pense que ça va être mieux au retour. J'espère. J'espère que la pandémie, ça va être un beau reset, là. Je le souhaite.
C'est ça, le reset, doute. C'est ça. Le reset, c'était la liste.
Ouais.
Ouais.
Oh, sur ces belles paroles, on espère un grand reset artistique du showbiz québécois.
Merci d'être venu. Parce que t'es l'épisode le plus attendu.
Ah ouais?
Ouais.
Pour. Ah
non, parce qu'on parle tout le temps de toi. On parle tout le temps de toi. Nico, il me texte jamais. Il fait « Yo, demain, ça Guillaume, va être fou! »
Oui, on est arrivé ici, puis il était comme... C'est comme...
Il est arrivé, genre, 9h à l'avance.
Oui, c'est l'apogée, là.
C'est l'apogée.
Mais vraiment, merci.
J'espère que ça n'a pas déçu. On n'a que parlé de documentaire, au final.
C'est pour ça que ça va être génial.
Mais c'est beaucoup de bonnes suggestions.
Oui,
et c'est vraiment. On n'a jamais... Oh non, j'ai dit, on n'a pas parlé de sexe, mais on a parlé de Tiger Woods pendant une demi-heure.
Oui, on a parlé de la fille du resto de Dej.
Yeah.
Et moi, de les vidangeurs.
Je comprends en même temps. Je comprends.
Merci, merci. Je voulais aussi revenir sur le gag de Tiger Woods qui se fait assailler par des Marines. Ça aussi, c'est sexuel.
Très sexuel. C'était très, très révélateur.
C'est sexuel, mais voilà, c'est les petits moments que je voulais rappeler. Mais merci, Guillaume. On te suit sur ton podcast.
Ouais.
Tu le continues, ça continue.
Ouais. Je continue. Super. Tu checkais ça sur toutes les plateformes, YouTube et tout ça. Sinon, pas de show.
Pas de show.
Toujours pas de show.
C'est ça.
On sait pas trop.
On essaye, puis c'est difficile.
Exact.
Avec...
Ouais. On s'en parlera.
On s'en parle, ouais, c'est ça. Merci, Guillaume.
Merci.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.